Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Road to 10 Million. Nous sommes le 14 août, vous êtes toujours avec votre cher hôte Théo Lyon, fondateur de Kudak, voilà, qui parle de lui à la troisième personne. Il a 25 ans, il a une agence ads et il a pas fait de podcast la semaine dernière et il croyait qu'il allait s'en sortir comme ça. Ah là, je suis désolé, j'ai vraiment pas d'excuses. J'ai réfléchi à des excuses à mon petit cerveau, j'ai essayé de m'en trouver hein, avant de démarrer ce truc. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais... J'étais fatigué, j'étais en vacances. Bon, il est vrai que voilà, j'étais sur la Côte d'Azur, mais je suis rentré, j'avais le temps, quoi. Et non, je ne l'ai pas fait. Donc comme quoi, ça arrive un petit peu de sortir des clous. Vous allez voir qu'on va un peu en reparler dans les sujets de ce podcast que je vais finir de présenter avant pour les nouvelles personnes qui auraient cliqué par inadvertance dans leur feed Spotify. Vous apprêtez à perdre une heure de votre vie, donc voilà, faites-le en connaissance de cause. Je ne suis pas responsable voilà, du sentiment à la fin de ce podcast que vous trouverez déstructuré et peut-être très peu, comment on dit, instructif. Voilà, instructif. Bon, voilà. Si les deux premières minutes ne vous ont pas plu de ce podcast, 1 minute 15 à mon compteur, vous pouvez désormais fuir. Parce que voilà, c'est mon petit journal de bord, en gros, je vous explique, voilà, Kudak, c'est une agence e-commerce, je vous le disais avant, plutôt une agence ads même, d'ailleurs, que j'ai montée depuis bientôt 3 ans et demi, qui fait son petit bonhomme de chemin, puisqu'elle est à 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. J'aimerais bien l'emmener un petit peu plus loin, donc 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui équivaudrait un mensuel à 833 333 euros. Et pour ça, bah voilà, faut documenter. Et j'aime bien partager, merci Google de me rappeler. Qu'est-ce qui me rappelle ? Bon, pas très important. Facilement déconcentrable. Qu'est-ce que je vous racontais ? Voilà, j'aimerais l'emmener un petit peu plus loin, mon agence. Voilà, oui. Donc, je documente depuis quelques temps sur YouTube mon aventure maintenant, entrepreneuriale, tous les mois. Maintenant, c'est tous les trimestres. Il y a d'ailleurs bientôt le nouvel épisode qui va sortir, c'est dans 2 semaines, sur la chaîne Théo Lyon. Mais voilà, ça m'empêche, en fait, ce format un petit peu structuré sur YouTube de vous donner ces apprentissages à la volée tels que je les ai. Et donc, dans ce format de podcast, vous gagnez l'authenticité, mais vous perdez la structure et donc possiblement aussi l'impact. Mais voilà, c'est pour les gens qui veulent vraiment avoir de l'actu toutes les semaines, quand je fais toutes les semaines. Puisque oui, Road to 10 Million, je l'ai décidé, sera un podcast hebdomadaire. Je pense que j'avais pris un petit peu d'avance et donc j'ai dû le lancer il y a 9 semaines, 10 semaines. Et... Bon, il y a 10 épisodes parce que j'en ai fait beaucoup au début. J'en ai fait 3, je me suis plus senti. Je me suis dit qu'un jour j'allais faiblir et vous l'aurez noté, nous sommes déjà à l'épisode 10. On va pouvoir célébrer ça ensemble. Pour célébrer ça, il va y avoir une partie un petit peu plus longue que d'habitude à la fin qui sera la FAQ. Je vous ai demandé de me poser toutes les questions inimaginables sur le business, sur Kudak, sur l'e-commerce, sur le perso, sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Je n'ai pas regardé les questions, donc je les découvrirai en direct. On y répondra à la fin parce que c'est la troisième partie de ce format. Vous savez que d'abord, il y a une partie actualité. Où je vous parle de mon actu perso, de l'actu de Kudak et souvent un petit peu des sorties contenu de la semaine. Donc, qu'est-ce que je vais produire et qu'est-ce que vous pouvez regarder ? Il n'y a qu'ici d'ailleurs que j'annonce, enfin qu'ici que dans ce podcast Road to 10 Million, que je vous annonce qui va sortir en avant-première. Vous êtes les seuls, vous êtes des privilégiés et vous le méritez bien pour avoir subi toutes mes conneries. Parce que si vous êtes à l'épisode 10, c'est que probablement vous avez dû consommer un ou plusieurs des épisodes précédents. Je pense que personne n'est chelou au point de cliquer en premier sur. Ici. Si, je suis en train de réfléchir. Moi, il y a pas mal de podcasts parce qu'en les découvrant, j'ai cliqué sur le dernier épisode et ensuite je me les suis retapés, mais à l'envers. Pourquoi ? Je sais pas. D'ailleurs, dites-moi comment vous faites. Comment est-ce que vous avez découvert le podcast ? Vous avez regardé quoi comme épisode d'abord ? Et surtout, comment vous l'avez découvert, cette merde ? Parce que ne me dites pas que vous l'avez découvert avec l'algorithme Spotify. Ça m'étonnerait. On n'est pas encore assez gros. Du coup, je me rajoute aussi de vous faire un petit update. J'oublie à chaque fois des chiffres du podcast. Mais bon, bref. Donc, première partie actualité de la semaine. Je vais y passer très très vite, vous inquiétez pas. Ensuite, la dissertation hebdomadaire. Là, pour cet épisode, on va revenir sur un format que j'avais fait un peu au début, qui sont des méditations à la volée. Voilà, donc un peu le transcript de mon journal, des choses que j'ai notées parfois la journée, parfois la nuit, parfois au milieu d'une boîte de nuit, à une table entre deux verres, quand l'inspiration me venait, puisqu'on ne choisit pas quand est-ce que nous sommes touchés par la grâce divine de l'intellect, n'est-ce pas ? Parfois, c'est tout bourré à 4 heures du matin. Et parfois, c'est jamais, pendant un mois. Il se trouve que les vacances, je vais vous en reparler après, m'ont permis à la fois de me reposer, mais aussi d'avoir plein d'idées. Je vous en parle juste après. Voilà, bref. Je vais pouvoir charger les stats du podcast. Voilà, vous voyez très bien que c'est sous-préparé. Hein. On charge Spotify for podcast for podcasters, pardon. Et je crois qu'on... Ah ben non, voilà, c'est... on va abandonner, je vous les donnerai à la fin parce que je ne suis même pas connecté sur le bon podcast. Je suis connecté sur mon autre podcast qui s'appelle Les Bruts e-commerce. Non, allez, non, je ne peux pas vous laisser comme ça, je vais vous le donner. Se connecter avec un email. Hop là. Allez vous prendre un petit verre d'eau. Hein. Faites comme si j'étais pas là. Hop. Hop là, oui, ça arrive. Là, je vous jure, c'est une affaire de secondes. J'ai dit, voilà, on est à 13 358 écoutes de ce podcast pour 9 épisodes, 10 épisodes si on compte le zéro. Ah oui, d'ailleurs. Je me suis dit, faire un épisode zéro, c'est vraiment un truc de baltringue. J'en parlais avec un ami qui disait qu'en fait, c'est un truc de lâche. Parce que quand tu fais un épisode zéro et pas un épisode 1 au tout début, en gros, tu te laisses la possibilité d'arrêter. Tu dis, je vais peut-être arrêter. Et les gens, ils verront du feu parce que c'était le zéro. Du coup, oh, c'est pas grave. Alors que tout le monde s'en fout. Les gens, ils s'en foutent que ce soit marqué 0, 1, 69. Ils s'en battent les couilles. Ils veulent juste, s'ils aiment bien, ils veulent en écouter un autre. S'ils aiment pas, ils se cassent. Donc, si jamais vous voulez lancer un podcast et que vous voulez faire la grosse salope comme moi et appeler et mettre un numéro 0, bon, bah, sachez que voilà, ça ne concernera que vous-même. Donnez-vous des portes de sortie si vous voulez. Et ça sert à rien. On passe tout de suite à l'actu. Jingle. Non, c'est une blague. Toujours pas de jingle. Parce qu'il n'y a toujours pas de préparation. Bon, les actus perso, je vous explique. En gros, moi j'étais dans un gros cycle de vacances. Là. Ça fait 2 semaines quand même que je me balade un petit peu aux 4 coins de la France et de l'Europe. Vous savez, si vous avez écouté l'épisode précédent, que je rentrais à l'époque de vacances à Tenerife, qui était sublime. Et je vous invite à vous rendre sur Instagram, théo.le.lyon. pour aller constater à quel point j'ai bien fait le mec sur les photos. Voilà, j'ai un petit carrousel et un petit reel qui sont sortis. J'ai mis des petites musiques que j'ai découvertes pendant les vacances. Voilà, bref, voilà, vous connaissez. On s'amuse, voilà, on profite un petit peu. Et comme il y a des photographes en vacances, bah voilà, on prend des bonnes photos. Et on fait de la brand. Hein. Pour les connaisseurs, ça s'appelle des lead magnets. Voilà, je ne veux pas m'étendre sur cette idée. Donc, ensuite, après Tenerife, j'ai eu quelques jours pour me reposer à Paris. Et puis, nous sommes directement descendus sur la Côte d'Azur. C'était la première fois que j'y allais. En plein été. Donc voilà, j'en avais entendu la réputation, tout ce qui est Saint-Tropez, Ramatuelle, etc. Ces petites villes charmantes et sublimes, voilà, et pleines de riches et de nouveaux riches. Mais voilà, j'étais très excité à l'idée d'y aller. Donc voilà, on y a passé 4 jours, on a logé aux Isambres, pour ceux qui connaissent, dans un petit hôtel juste en face de la plage, qui était très sympathique. J'ai descendu, je dis on parce que je suis descendu avec Jordan, que j'ai emmené dans mes péripéties, dans mon périple. Jordan, du coup, premier employé de Kodak et lead performance manager aussi dans l'entreprise, voilà, et partenaire, voilà, souvent c'est le premier à m'accompagner dans tous les délires un petit peu soirée aventure. Donc il n'a pas manqué et il s'est rendu avec moi en terre azuréenne, si ça existe. Et voilà, j'ai passé un excellent moment. On descendait principalement parce que voilà, c'était l'anniversaire de Yomi, que vous connaissez certainement, Yomi Denzel, qui organisait du coup dans sa petite villa de location à Grimaud. Une white party qui s'est déroulée voilà, dans le plus grand des calmes, on peut le dire, sans accroc, grand plaisir, et qui était très bien organisé. Et puis il se trouve même que voilà, le DJ de la soirée, c'était lui aussi, et il a fait une plutôt bonne prestation. Donc voilà, moi j'ai chasamé quelques-uns des sons, et je les ai même mis, voilà, je crois que le son que j'ai mis dans mon dernier reel sur Instagram, je l'ai peut-être découvert, voilà, un petit peu éméché en train de bouger sur du son de Yomi Denzel, voilà. Donc bref, en tout cas, merci beaucoup Yomi, si tu n'écoutes probablement pas ce podcast, voilà, je vais même pas faire genre t'écoutes, ça m'étonnerait. Je te souhaite pas, je souhaite vraiment que t'aies quelque chose de mieux à faire de ta vie. Mais voilà, j'ai découvert plein de choses intéressantes sur la Côte d'Azur. J'ai vu en fait les deux parties du public qui s'y rend, les nouveaux riches et les anciens riches, puisque j'ai aussi eu l'occasion de, enfin entre guillemets les anciens riches, mais j'ai eu l'occasion de déjeuner avec mon ami Alexandre Mullier, qui m'a emmené dans un super resto qui s'appelle Indie Beach. Et je trouve ça très intéressant, voilà, de voir un petit peu les deux faces de cette ville-là. Donc les gens qui aiment bien faire la fête très très fort, mais d'ailleurs en plus c'est un truc qu'ils partagent, hein, d'ailleurs, c'est nouveau et ancien riche, c'est quelque chose, faire la fête, ça rassemble tout le monde. Je crois que les deux populations ne s'aiment pas trop. Il y en a qui se traitent d'héritiers, un côté qui traite les autres d'héritiers et l'autre qui traite les autres de flexeurs. Mais bref, en tout cas, c'était très intéressant. C'est la première fois que je faisais ce genre de choses. Parce que moi, vous savez que j'ai grandi à Versailles. Donc, j'étais ni un nouveau riche, ni un riche. C'était, j'étais un bien tranquille t'as eu. Pas en cadre, voilà, on allait en vacances et on vivait dans une maison sympathique. Mais on n'était pas des flexeurs. Et on n'avait pas ni de fortune familiale dont on pouvait. Donc bref, tout ça pour dire que j'avais ni connaissance d'aucune des deux de ces populations et j'ai passé un excellent moment voilà, en ouverture d'esprit. Évidemment, voilà, je descendais pour ça, hein, évidemment, pour me culturer. Voilà, vous aurez compris du verbe culturer, je culture, tu culture, nous culturam. J'ai pris beaucoup de goût, notamment j'ai un peu repris goût à la fête, pour être honnête. C'est quelque chose que j'avais un petit peu de mal à remettre. Enfin, j'avais du mal à trouver comment faire la fête quand tu es entrepreneur, sachant que ça t'éclate quand même souvent une journée de productivité. Mais pourtant, je passe des très bons moments. Évidemment, j'ai cultivé l'art du lever de poignet à HEC, en école de commerce, puisque là-bas, c'est comme une religion. Et j'ai eu du mal à retrouver voilà, du plaisir dans ce type d'activité après, quand il a fallu performer professionnellement. Et donc là, j'ai trouvé ça très cool parce qu'en fait, tu es avec tous les gens. Bah, ça rassure un peu parce que tu dis que tous les gens dont tu t'imagines que c'est des top performers, je sais pas quoi, et bah, ils sont en train de lever le poignet avec toi. Donc tu te dis finalement, bon, c'est pas si grave, il faut quand même faire des petites pauses. Et voilà, ce qui m'a beaucoup fait kiffer d'ailleurs à Saint-Tropez, c'est que c'est la musique. Je sais pas si vous êtes. Ah, moi, je connaissais pas trop ces musiques de beach club, boîte de nuit sympa, un peu house, une nouvelle house que je connaissais pas. J'en écoutais beaucoup quand j'étais DJ à HEC, pardon. J'ai un peu raté ce mouvement-là de musique et je l'ai redécouvert. Avec plein de très bons artistes, notamment j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Notre-Dame, j'aime beaucoup, et c'est encore une fois celui qui a fait le son, donc j'ai mis dans mon Reels, voilà, vous avez compris les appels de phare hein, pour aller voir mon Instagram, hein. Allez-y, abonnez-vous, théo.le.lyon, et donc j'ai au global un avis très favorable sur cette zone qui est la Côte d'Azur, puisque évidemment ça va de soi, je n'ai pas rappelé que c'est à la hauteur de sa réputation d'un point de vue visuel, c'est magnifique, cette côte est magnifique, et si la route... qui longeait le littoral n'était pas aussi bondé et unique, parce qu'en fait, il y a une seule route, c'est pour ça qu'il y a toujours des embouteillages, et bien on pourrait faire des petits allers-retours juste pour le plaisir, en fait, histoire d'apprécier les paysages. Voilà, donc, c'est la fin d'un cycle de vacances, c'est super. Voilà, retour au charbon. Et j'ai retravaillé une semaine, du coup, la semaine qui vient de s'écouler, donc la semaine du 7 au 14 août, c'est ça. Et ce week-end, je me suis rendu un peu quand même, il fallait aller voir la famille, et je suis allé rendre visite à ma famille qui était en vacances à Lacanau pendant 2 semaines, et j'y suis passé le temps du week-end. Je suis parti à 6h le samedi, je suis rentré à 22h le dimanche, juste pour faire une petite soirée, enfin une journée, une soirée avec ma famille, voilà, que j'ai pu chérir le temps de quelques instants sous le soleil. Alors Lacanau, c'est Gironde. J'allais dire le soleil, d'habitude on dit le soleil breton, pour se foutre de la gueule, parce qu'on part souvent en Bretagne, mais là, oui, je crois que... Je crois que Lacanau, c'est la Gironde. Je ne peux pas vous laisser comme ça, je vais m'humilier. Si je corrige après, vous allez me foutre de ma gueule. Lacanau, c'est à côté de Bordeaux quand même, non ? Lacanau, région. Gironde, voilà, département Gironde. Région Nouvelle-Aquitaine. J'avais raison, superbe. Alors, oui, donc voilà, c'était super. C'était justement en très grosse opposition à ce que j'avais vécu par le passé, parce que c'est une ville qui est très charmante et familiale. Un peu isolé, je savais pas, c'est la première fois que j'y allais aussi. Donc je vous recommande vraiment aussi si vous êtes surfeur, s'il y a des petits spots cool. Enfin si vous voulez aussi pardon avoir des petits spots cool et un peu moins bondés, parce que même s'il y a du monde, en fait il y a pas tant de monde que ça. Je trouve. Enfin la ville est quand même super bien faite. Tu peux être tranquille dans plein d'endroits qui sont très proches du centre. Bon, il est lundi 14 août 20h. Je viens de faire toute une journée de travail, donc normalement j'enregistre le dimanche. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc c'est la fin des actus perso, si vous en battez les couilles, tant pis. Maintenant, actu pro. Alors, je voulais vous parler de quelque chose, puisque suite à cette période de vacances, je me suis remis au travail, et j'étais très content d'y revenir, parce qu'en fait, il se passe quelque chose de très cool quand tu montes ta boîte, c'est que tu as plein d'idées pendant les vacances, et à la fin, tu commences à avoir très très envie de revenir pour les appliquer. Donc je suis revenu, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un genre de clarté d'esprit, qui m'a permis de me rendre compte que... ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais un sentiment un peu de brouillard. Évidemment par intermittence, avec des moins et des biens et des moins biens, mais ça fait quand même quelques mois, je dirais peut-être 4, 5, 6 mois, enfin depuis le début de l'année, que j'ai un peu l'impression d'avoir moins de clarté dans mes décisions, dans la façon de penser, principalement sur les décisions de Koudak. J'ai l'impression d'un peu naviguer à vue dans un nuage et d'attendre de voir, ok, bon, quand est-ce que c'est la fin du nuage, où est-ce qu'il se termine le tunnel. Et donc d'avoir l'impression un peu de me débattre. C'est un phénomène qui a été totalement dissipé à son retour de vacances, et pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai repris un peu contrôle de ma santé. Par santé, j'entends... Et en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je pense que ça peut être un bon conseil pour vous. Si jamais vous expérimentez un peu... En anglais, ça s'appelle le brain fog. Donc ça vient surtout... je crois que ça vient aussi avec les crashs de caféine. C'est-à-dire que c'est tout le moment ton cerveau, il arrête de fonctionner. Je crois que c'est après manger, principalement. J'ai peut-être de la merde. Et donc, si jamais vous expérimentez même une période un peu plus longue que ça, parce que moi, c'était vraiment... Ça a duré plusieurs mois. J'ai l'impression de sous-performer par rapport à ce que je faisais d'habitude. Questionnez un petit peu vos habitudes. Donc moi, première chose, j'avais laissé ma santé un petit peu partir en couille. Pas partir en couille parce que j'ai un bon niveau global, enfin de base sur ce qui est sport et alimentation, je ne suis pas immonde non plus. J'ai comme une grande culte, enfin un passé, disons. Passé, héritage, bref, des habitudes quand même que je fais du sport depuis longtemps. Donc même mon niveau zéro en fait de sport, et c'est quand même un petit peu de sport. Donc c'était pas catastrophique, mais c'était en dessous des standards que je voulais m'appliquer à moi-même. Donc la première chose, j'ai repris le sport. Je me suis mis un petit défi en public dont on va reparler après. Et si vous l'aurez peut-être suivi sur Instagram, théo.le.lyon, troisième fois. Et ensuite, j'ai recommencé à m'imposer de la discipline. Je me suis rendu compte que j'avais un petit peu perdu cet aspect se faire violence sur pas mal de choses. Donc apprendre à se réveiller tôt, à travailler quand il faut travailler, à mettre son téléphone en mode avion. Et c'est plein de mini-réflexes qui se mettent en place un par un, de mauvaises habitudes. Et que vous ne voyez pas se mettre en place. C'est pour ça que parfois, vous pouvez vous retrouver dans des périodes où vous sous-performez, vous ne savez pas pourquoi. Bien souvent, c'est parce que le reste de votre vie n'est pas là où vous voudriez que ça soit. Et donc moi, ça fait un mois que je retravaille ces trucs-là, un peu plus, un mois et demi. Et puis en parallèle, j'étais dans une période personnelle un peu plus compliquée, des sujets dont je ne vais pas parler dans Route, tout est mignonne. Mais ce n'était pas la meilleure période ces derniers mois. Et donc du coup, je sortais une période pas ouf. J'ai un petit peu repris le contrôle de certains pans de ma vie que j'ai jugé importants. Je parle aussi des relations sociales, de la famille, etc. Et j'ai l'impression que ces vacances sont venues comme la cerise sur le gâteau, me permettre de faire un genre de reset, de nettoyer le système, d'évacuer toute la merde. Et en fait, j'ai pas des meilleures idées depuis que je suis rentré. J'ai juste moins d'idées de merde. C'est-à-dire que ça m'a retiré tout le superflu. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de clarté. Je sais sur quoi je dois travailler, je sais sur quoi les autres doivent travailler, et j'ai plus de doutes. Ça m'a remis un petit peu la confiance. C'est un sujet dont je voulais vous parler aussi, c'est que le principal truc qui saute quand tu es dans une période de brouillard, où t'as l'impression... En fait, la meilleure métaphore, c'était sur un bateau qui avance, qui n'est pas statique, et tu vois ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche. Et donc, pour le coup, le seul truc que tu sais, c'est « Ok, je garde le cap, je sais que je dois aller au nord, mais je suis... » Ah, ça se trouve, en fait, mon bateau, il a bougé parce qu'il y a eu du courant, je n'en sais rien. Et donc, ce qui t'empêche, en fait, de te sortir du brouillard, souvent, c'est que tu n'as plus confiance ou que tu doutes. Et le doute, c'est un maléfice. Parce que c'est ce qui se situe entre toutes tes connaissances que tu as dans ta tête et les transformer en résultats tangibles. Je m'explique. Il y a plein de gens qui sont géniaux, qui ont plein de super idées, mais qui sont persuadés qu'ils sont nuls à chier. Et donc, l'équivalent de douter. Ce truc-là est un drame. Parce que ces personnes-là ne vont jamais partager leurs idées, ne vont jamais essayer de les transformer en action. Et ça peut arriver très très vite dans une aventure entrepreneuriale de perdre un peu confiance. Tu prends 2, 3, 4 défaites de suite, ce qui peut arriver, c'est la variance. Hein. Tu peux être très bon et avoir des défaites de suite, tu peux aussi être très mauvais. Enfin, ça peut aussi révéler que tu es très mauvais. Je pense que moi, c'était plutôt ça, qu'il fallait que je progresse sur certains points. Et c'est ce premier truc-là qui perd. Et donc, cette confiance, il faut la reconstruire. Et je pense que là où ça a aidé, c'est se reprendre sur la santé, sur la famille, etc. Et tout. C'est que ça a reconstruit une confiance dans ma capacité à être discipliné. Et à prendre des bonnes décisions et accomplir des résultats, parce que tu vois des changements sur ton corps quand tu t'entraînes, tu vois que tu es capable de faire des trucs que d'autres gens ne sont pas capables de faire, donc s'imposer d'aller à la salle 3-4 fois par semaine pendant longtemps et marcher 10 000 pas, ça fait partie aussi des trucs que je m'impose. Et donc ça te redonne confiance sur ça, et hop, moi ça m'a aidé dans le business alors qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Donc, si vous êtes dans cette période-là, force à vous. Et regardez autour de vous, ne regardez pas que devant. Voilà, peut-être parfois le problème est dans les habitudes. Dernière section de cette actualité, je parlais des sorties vidéo de la semaine au cas où vous les auriez ratées. On a sorti 4 contenus. Le premier, c'est la table ronde avec 3 invités. J'ai reçu Le Closet, Soit Paris et Laforie, qui sont 3 marques de mode qui nous permettent de faire une masterclass e-commerce pour les boîtes fashion. Donc si vous avez une boîte dans ce milieu-là ou si vous connaissez quelqu'un qui en a une, vous pouvez lui partager la vidéo qu'on a accompagnée d'une étude de cas qui fait 30 pages. Et voilà, c'est aussi un lead magnet. Et c'est pas les mêmes leads qu'on veut magnéter que le premier. seconde vidéo qui est sortie, l'interview de Rassem, le fondateur de Legal Place, qui est extrêmement intéressant et très très sharp dans son expression, qui a détaillé en fait toute la stratégie qui a permis à Legal Place de prendre 7% du marché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du marché, du coup, des gens qui veulent monter leur boîte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, 7%. Attendez, j'ai mis ma clim parce qu'il fait un peu chaud chez moi. C'est monstrueux. Prendre 7% d'un marché, c'est vraiment une prouesse. Et donc, ils expliquent un peu comment est-ce qu'ils l'ont fait. Donc, même si vous n'êtes pas pour le coup une boîte B2B, une boîte légale, légal tech ou quoi que ce soit, c'est très intéressant. Ça se situe sur ma chaîne YouTube. Ça vous a beaucoup plu. Merci. Ensuite, j'ai fait un nouveau format sur Instagram. On a essayé de commenter des extraits d'Enlève tes chaussures. On a fait un truc avec Ruben Cohen, du coup le fondateur de Follow, et c'est un format qui vous a bien plu parce que ça fait 30 000 vues. Je fais pas tout le temps des perfs comme ça sur Instagram, donc visiblement ça a trouvé son public. Notamment là-dedans, il parle de comment trouver ses premiers clients. Voilà. Et la dernière vidéo qui est sortie, c'est sur la chaîne Les Bruts e-commerce, c'est l'épisode avec Live Mentor, donc Alexandre Dana, voilà, quelqu'un qui est très connu dans la Startup Nation pour le temps qu'il dédie aux entrepreneurs. L'épisode est une masterclass. Et je vous donne en avant-première le contenu qui va sortir cette semaine. Vendredi, vous aurez un épisode de transition d'Enlève tes chaussures, parce que vous savez qu'on a terminé la première saison. Et c'est un épisode qui est en famille. En famille Kodak, mais aussi en famille Lyon Uez, qui sont mes deux noms de famille. Puisque voilà, il y a eu mon frère et ma mère. Ce n'était pas prévu qu'il passe dedans, mais voilà, l'épisode a duré 3 ou 4 heures et à la fin, c'est un peu parti en couille. Donc ça sort ce vendredi. Et c'est un épisode qu'on a tourné dehors. On a mis les canapés dehors, donc vous allez voir. C'est, franchement, le cadre est trop beau. Je vous laisse découvrir ça. Putain, je crois que j'ai passé longtemps sur la partie actuelle. 21 minutes. Il va être super long cet épisode parce que je vous jure que j'ai un nombre de trucs à partager. Je me demande si je ne devrais pas squeezer la disserte. Bon, vous l'écouterez en plusieurs fois, mais j'ai vraiment envie de vous parler de quelques-uns des points que j'ai notés. Alors, je n'ai rien préparé de réflexion, donc on va voir jusqu'où mon cerveau me porte. Si je vois que ça ne déroule pas très vite, je passerai directement aux questions. Je ressors mes notes. Donc, ah oui, les réflexions en vrac, je vous représente quand même. Non, mais je vous l'ai déjà dit en intro, en fait. En fait, j'ai pas besoin d'invité pour faire le podcast. Hein. Je me parle tout seul. Je me contredis. Je m'insulte un peu. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi. Vous savez que j'ai hésité à le faire demain matin, cet épisode, parce que j'ai vu, en fait, en faisant ma dernière tâche de la journée, il y a une heure, que j'étais vraiment plus très sharp. Que je réfléchissais beaucoup plus lentement. J'avais du mal. En plus, je viens d'aller me chercher un petit dîner là. J'ai mangé un sandwich Subway puisque j'ai le droit dans ma petite diète d'aller me prendre un sandwich, un sub 30 poulet cheddar, parce que ça fait 650 calories. Donc c'est honnête. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de glucides et que c'est pas forcément le meilleur truc à prendre avant de faire un travail intellectuel. Mais en tant que bons entrepreneurs, nous devons être capables, à l'image des combattants, de fonctionner dans n'importe quelle situation. Vous êtes cassé une jambe, vous combattez. Vous venez de manger un sub 30 avant un podcast qui nécessite un cerveau, vous le faites quand même. Alors, je vous ai noté. Ma première note, c'est je me suis fait la réflexion que sur un peu le thème de l'innovation. Et j'ai trouvé une façon d'innover qui est très facile et qui est accessible à tout le monde. Donc, si vous montez des business et vous cherchez à introduire un petit peu de nouveauté, c'est celle de réunir des extrêmes et de faire des parallèles. Alors, je trouve ça très fascinant et très admiratif, admirable même, les boîtes qui ont réussi à faire cohabiter des opposés. Je prends un exemple. Je trouve que ça crée toujours en fait des choses très singulières quand on le fait. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec Kodak, où je pense qu'une des raisons pour lesquelles on attire l'attention, alors qu'on est une agence, hein, c'est le business le plus chiant de la Terre, d'extérieur. Après, ça l'est pas, hein, mais du moins dans l'imaginaire commun. C'est parce que les gens se demandent si c'est possible qu'il y ait une boîte sérieuse et que le CEO ait une chaîne YouTube et fasse des podcasts de la sorte. Les gens se disent, mais attends, c'est pas possible. Alors, c'est pas du tout l'image que je me fais d'un mec qui a 50 employés. C'est pas comme ça qu'on m'a décrit en école de commerce ou sur Internet, voilà, dans les documentaires. Eh bien, ça, c'est une façon de réunir les opposés. Et il y a une autre façon que j'ai trouvé. En fait, j'ai maté dans les sons que j'ai réécoutés un peu à Saint-Tropez, de fil en aiguille sur Spotify, je suis tombé sur des recommandations aléatoires. Et notamment, je suis retombé sur un son que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Territory, de The Blaze. Et le clip est monstrueux. C'est avec le gars qui joue dans James Bond, là, qui est un Français, qui joue trop bien. Et j'ai trouvé que c'était foncièrement singulier. Je ne savais pas, en fait, quand on le mate ce clip, il est phasant, on plane, et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, je pense que c'est parce que l'esthétique du clip ne correspond pas à la musique qu'on entend. C'est un mec de cité, tu ne sais pas trop ce qu'il fait, il fait du shadowboxing, après il fait la fête avec ses potes, et puis il pleure un petit coup, etc. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de voir, mais les images sont magnifiques, et le mec joue super bien, et le son te fait planer. Et en fait, c'est une face... Non, c'est pas un son planant, normalement, on n'a pas ce genre de clip. Et pareil, ce qu'on voit à l'écran, normalement, n'est pas illustré par ce genre de musique. Et c'est ça qui crée un truc foncièrement unique. Donc, ce que je vous invite à faire, quelle leçon vous pouvez en tirer, c'est essayer de trouver des inspirations, de réunir des trucs qui, normalement, ne vont pas ensemble. Donc, moi, c'est voilà, YouTube et monter une boîte, enfin, être CEO et avoir une chaîne YouTube, disons, c'est ça. Être sérieux, parce que je pense que les gens ont du mal à imaginer... un Bernard Arnault, etc., bon, qui sont évidemment pas dans la même dimension que moi, avoir une chaîne YouTube, ça serait vraiment très drôle. Essayez d'aller chercher voilà, dans les extrêmes, essayez d'aller vous inspirer de domaines un peu différents. Moi, je fais beaucoup pour prendre mes décisions, j'ai trouvé beaucoup de choses dans des podcasts de philo, dans des bouquins. Mes meilleurs apprentissages business, je ne les ai pas appris dans des bouquins de business. Je les ai vraiment appris dans des bouquins, d'ailleurs, je recommande vraiment beaucoup les bouquins plus de réflexion, de fondamentaux, un peu de logique. Type, il y a une série de Farnham Street, F-A-R-N-A-M, Street comme une rue, qui s'appelle The Great Mental Models, qui est une série en 3 opus de bouquins, dans lequel il liste des modèles mentaux avec des exemples dedans, et je trouve que c'est une très bonne façon d'appliquer ces trucs-là, parce que c'est par définition le truc le plus domaine agnostique, ça veut dire qu'en gros, un modèle mental, tu l'appliques quel que soit le domaine, pardon, et ça marche bien. Et voilà, donc essayez d'aller vous inspirer des extrêmes, je vous recommande, je ne sais pas si c'était clair. Voilà. Bon, c'est une bonne entrée en matière. Pour l'instant, on va dire que je continue dans ces réflexions. Mon second point, d'ailleurs, c'est un petit peu une transition avec les modèles mentaux. C'est un des modèles mentaux que j'ai trouvé dans ce bouquin qui s'appelait, qui a été popularisé par Warren Buffett. C'est sa première règle d'investissement, c'est « don't lose money ». Et ensuite, il a que 2 autres règles, c'est « ne jamais oublier la règle numéro 1 ». Et ça fait écho à un modèle mental qui s'appelle le modèle de l'inversion, dont je crois que je vous avais déjà parlé dans le podcast, là, l'épisode sur les modèles mentaux. C'est que c'est beaucoup plus facile d'éviter la stupidité que de faire preuve de génie. Et alors ça, sur le papier, je comprends. Mais sauf que ce que ça ne dit pas derrière, c'est que... en fait, ça marche pour ne pas se tromper, pour réussir, mais ça oublie un truc quand tu prends cette stratégie-là, qui est en fait la stratégie de jouer pour ne pas perdre, hein, c'est ça qui est important, c'est que du coup, tu ne prends aucun risque, en fait, dans ce genre de configuration-là. Tu prends, comment vous dire, en fait, tu fais fi de la magnitude des succès. Et je vous avais déjà expliqué, j'en parle tout le temps, ça, de ce que j'ai appris au poker. C'est que je me lève, hein, pour avoir l'esprit un peu plus vif. Tu peux perdre 9 coups, tu perds 1 euro à chaque fois. Si tu gagnes 100 euros sur le dernier coup, t'es gagnant sur le long terme. Et ben malheureusement, la stratégie de Warren Buffett, elle te permet pas. Si tu cherches tout le temps à essayer de ne pas faire de conneries, donc de jouer pour ne pas perdre, elle ne te permet pas d'avoir ces gros succès-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que n'importe quel... Enfin, les bons venture capitalistes ont des meilleurs rendements que Warren Buffett. Parce que Warren Buffett, sa stratégie, ce n'est pas de maximiser les gains, c'est de minimiser les pertes. C'est très différent. Et le jeu des startups, c'est maximiser les gains, ce n'est pas minimiser les pertes. Donc, écoutez-le et posez-vous vraiment la question de quelle est la limite de cette mentalité. Et puis, c'est très chiant de vivre comme ça, honnêtement. D'arriver dans une situation, de ne pas essayer de faire des dingueries, d'innover, quoi, simplement. Moi, je trouve ça, que c'est une très bonne, c'est un très bon truc à garder en tête pour éviter les causes communes d'erreur. Se dire qu'est-ce qu'un idiot ferait dans ma situation, qu'est-ce qu'une personne pas préparée ferait. Donc, par exemple, je ne sais pas, je veux avoir une bonne condition physique, qu'est-ce qu'un idiot ferait? Il irait manger tous les jours au McDo. Bon, ok, ça veut dire peut-être que j'évite les fast-food. Il ne s'entraînerait pas ou il serait très irrégulier. Bon, écoute, il va falloir que je sois régulier. Ok. Mais après, il ne va pas trouver des idées. Il ne va pas trouver des edges comme ça, en fait. il va juste être moins mauvais que les autres. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a toute une partie qui consiste à être meilleur. Commencer à essayer d'être meilleur que les autres. Donc, aller chercher, peut-être qu'il y a tel complément alimentaire que je peux utiliser. Et parce qu'un idiot, ce ne serait pas un mec qui ne consomme pas de. Ce n'est pas idiot de ne pas consommer de compléments alimentaires. Mais par contre, voilà, si tu regardes l'autre côté de la pièce, ça peut être cool. Donc, posez-vous ces questions-là. Ne jouez pas toujours pour ne pas perdre. Jouez pour gagner. Prenez des risques. C'est comme ça qu'il nous arrive des trucs lourds. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite? Putain, qu'est-ce que je voulais dire derrière ça? Ah oui, c'est la vidéo que j'ai scrollé Instagram Reels en rentrant de Saint-Tropez dans l'avion. Et je suis tombé sur la vidéo des DJ Snake qui mixent dans le McDo. Et DJ Snake, c'est une personne que je suis allé voir en concert à la U Arena quand il est passé à Paris il y a quelques années déjà. Et je m'en rappelle comme l'une des meilleures expériences musicales de toute ma vie. Vraiment, honnêtement, de loin, je n'ai même pas eu à réfléchir. C'était incroyable parce qu'il a réussi à créer un storytelling de ouf où en mode tous les concerts qu'il avait fait dans le passé l'avaient amené jusqu'à cette date qui était à Paris, dans sa ville, dans la plus grande salle qui ait jamais été remplie par un DJ. C'était la première fois, je ne sais pas quoi. Et il en parle aussi dans l'After Movie. Et il dit notamment un truc à la fin de l'After Movie. Vous pouvez aller regarder si vous voulez. DJ Snake U Arena, je crois que c'est 2019-2020. C'est quand il avait sorti Carte Blanche, l'album. C'est « Je ne sais pas comment on va pouvoir taper plus fort. » Donc, je me suis noté comme observation. Tu ne peux pas gagner de manière générale, donc gagner, you can't win, en jouant à qui a la plus grosse. C'est un jeu que tu es condamné à perdre. Et pourquoi est-ce que j'ai fait le parallèle avec ce qu'il faisait au McDo? C'est parce qu'en fait, DJ Snake, il ne peut pas vraiment taper plus fort que la U Arena. Et puis, globalement, depuis 2019, s'il y avait quelque chose de plus fort, il l'aurait déjà fait, je crois qu'il l'a fait. Bon, il a fait le Parc des Princes, entre-temps. En fait, il a fait tous les trucs possibles et imaginables, et au jeu de « je remplis la salle avec le plus de personnes qui m'écoutent faire de la musique », bon, bah, à un moment, il est coincé. Et donc, ce jeu-là, en vrai, on peut se dire « ok, bah, si je peux pas gagner le jeu, bah, j'arrête de jouer, ça sert à rien, je peux pas stagner, bah, c'est extrêmement chiant. Il n'y a rien de pire que la stagnation. » Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc qu'aucun autre DJ avait jamais fait, c'est une putain de collab avec McDo. Donc, ça a été le premier artiste. Et vous m'entendez, mais c'est pas, en fait, c'est drôle, mais à la fois, c'est pas drôle, c'est hyper original. Moi, je trouve que c'est un move, mais incroyable, ce truc-là. Pour McDonald's, déjà, c'est incroyable, parce qu'en plus, il y a un menu, je crois, qui vient derrière. Bon, pour le coup, ils auraient pu faire un burger, quand même, je trouve. Je crois qu'ils ont pris le même burger que tout le monde. Ça peut juste le menu DJ Snake, il doit y avoir, je sais pas, il y a une frite en plus, je sais même pas ce que c'est. Mais je l'ai vu, en fait, il a pas retenu mon attention. Donc, c'est un peu bâclé le truc, mais en tout cas, après, il faut changer de terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les meilleurs jeux, c'est pas être le plus riche, être le plus stock, avoir la meuf la plus bonne, avoir la plus grande maison, c'est être équilibré et être très très bon dans plein de domaines. Donc DJ Snake, non seulement celui qui remplit les plus grandes salles, mais, merde, attendez, mon casque s'est débranché, c'est pas juste celui qui remplit les plus grandes salles, c'est aussi celui qui a fait la campagne marketing avec les marques la plus originale. Et puis après, il peut aller chercher plein de side quests comme ça, qui sont en fait des très bonnes façons de marquer l'histoire et de continuer à faire de la croissance. Et donc, je vous conseille, dès le démarrage, de ne pas vous engager dans des jeux absolus comme ça. Donc, je veux faire le... Parce que, enfin, déjà, c'est un peu loin quand tu te lances dans quelque chose, de dire je veux être le numéro d'un truc. Mais essayez plutôt d'aller chercher dans plein de domaines. Et voilà, parce que de toute façon, ces catégories-là, elles sont déjà occupées. Donc, DJ Snake, il a la chance de pouvoir être au top de ça. Et après, bah, ouais, il est obligé de changer. Il s'est rendu compte, oh putain, j'ai tout donné pour ça, maintenant quoi? Maintenant, ok. Maintenant, il faut être équilibré. Donc vous, soyez équilibré dès le démarrage, ça rend beaucoup plus heureux. Voilà. Je ne sais pas à quel point ma démonstration était bancale, mais l'idée m'a beaucoup plu. J'ai dû noter ça. Celle-là, je crois que je l'ai vraiment notée au chiottes. J'étais parti pisser à la cano, ouais, en boîte. Ça explique peut-être la qualité de la réflexion. On passe à la suivante. Oui, ah, alors ça là j'aime bien. Je crois que j'écoutais un podcast d'un mec qui fait une conférence à Harvard là sur un putain de VC média trainé avec le grand sourire qui a faké des larmes même à la fin, je crois, etc. Bon, c'était un peu ridicule, mais il avait une idée intéressante. Il disait que à chaque fois que tu essaies d'accomplir quelque chose de grand, it gets worse first. Donc ça veut dire ça devient pire d'abord. Et alors, ça peut paraître un peu con comme idée, mais par exemple, quand tu es dans ton travail et que tu veux suivre ta propre voie, donc monter ta boîte ou alors changer de taf, trouver un truc qui t'épanouit plus, la première chose qu'il faut faire, c'est quitter ton travail actuel. Et donc, ça devient pire sur le court terme. Pourquoi est-ce que cette... Et en fait, tu regardes à peu près toutes les choses incroyables qui ont été commises, qui ont été accomplies pardon, dans ce monde et que même que vous avez accompli dans vos expériences. Eh bien, elles ont toutes commencé par un gros sacrifice. Moi, j'ai monté Kodak. J'ai d'abord dû quitter ma putain d'agence en Australie, quitter dans le drama, sur un vieux mail de merde, de façon irrespectueuse. Et j'avais pas de porte, pas de route de secours. Parce qu'en fait, les gens, ils se disent souvent, je suis dans une boîte. Quand j'aurai une bonne idée, je vais le faire. Mais il y a aucun entrepreneur qui s'est jamais dit ça. Vous êtes des oufs. Ça n'existe pas. En vérité, souvent, c'est un appel. C'est plus fort que toi. Tu ne peux plus rester là où tu es. Donc, tu pars avant de savoir ce que tu vas faire. Et donc, je vous recommande de faire quoi? Si jamais vous ne savez pas trop quoi faire, regarde, cherchez quelque chose à sacrifier. Sacrifier du temps. Sacrifier un peu de plaisir court terme. Donc, on peut reprendre l'exemple de la salle. Sacrifier une sortie au McDo. Sacrifier le petit snack au milieu de la nuit là, quand vous avez faim. Sacrifiez ces trucs-là et regardez ce qui se passe. Et après, ça va vous donner lieu à une opportunité qui va vous donner lieu à une autre opportunité, etc. Et c'est la même chose. Si vous êtes dans une relation qui vous plaît pas avec votre partenaire, vous n'allez pas trouver le remplaçant avant d'avoir largué votre partenaire. Vous larguez d'abord et ensuite vous dites bon, peut-être que je vais trouver quelqu'un d'autre. Et sinon, c'est un truc de lâche en fait. Vous essayez de skipper le process et ça marche jamais. Il faut faire le sacrifice avant d'avoir la récompense. Donc, pay it forward, comme disait The Family. Qu'est-ce que je vous écrivais? Putain, je me rappellerai même ce que je voulais dire. Je vous lis à la volée hein, tout ce que j'ai écrit. Je vais peut-être en choisir une ou deux et après passer aux questions. J'ai mis l'herbe est-elle toujours plus verte ailleurs? Eh bien, ouais, je voulais prendre celle-là. Ce que je voulais dire par là, c'est que je trouve que justement, c'était en fait, j'ai mis un point d'interrogation, mais non, en fait, c'est un point d'exclamation. Je pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et c'est précisément pour ça qu'il faut choisir son gazon. Donc, parce que, voilà, ne croyez pas qu'un jour que vous montiez une boîte, whatever else, on va rester dans le scope entrepreneurial. Il y a plein de moments dans Kodak où j'avais envie de faire autre chose. Hein. Je me suis dit, putain, mais tel autre business, il a l'air beaucoup mieux, peut-être que ça me correspondrait mieux, etc. Et on peut dire que pour certains, c'était faux, pour certains, je pense que c'était vrai. Mais la vérité aussi, c'est que je suis convaincu que la vie se construit via des commitments. Donc, ça veut dire des commitments, des engagements. Et à un moment, vous décidez dans votre... Attends, je regarde si le micro est toujours branché parce qu'il y a un petit bip. Hop. À un moment, vous allez devoir accepter de settle. C'est-à-dire de vous dire, peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, mais franchement, j'ai un bon deal pour ce que j'ai là. Et aujourd'hui, sur Kodak, moi, j'ai un excellent deal. J'ai un lifestyle que j'adore. J'ai une équipe de ouf. Et je travaille sur un sujet qui m'intéresse. Et peut-être que si on remplaçait juste la partie agence, servir des clients par un autre type de business un peu plus fun, ben, je m'éclaterai plus, mais je ne suis pas sûr d'avoir exactement les mêmes variables. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas partir de ce que j'ai là, parce que je ne connais pas mieux. Enfin, je ne connais pas mieux d'un ordre de magnitude assez important. Donc, pourquoi est-ce que je voulais noter ça? Parce que je vous recommande voilà, d'être à l'aise, simplement, avec d'admettre cette idée. Et je viens de péter une latte de mon lit. C'est un sketch? C'est une blague ou c'est pas une blague? C'est pas une blague. Ok. Bon, ça m'apprendra. M'asseoir sur mon lit, pas sur ma chaise. Bon, c'est vraiment l'épisode le plus aléatoire que j'ai fait depuis le démarrage. Mais bon, c'est l'épisode 10. Merci d'être avec moi. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai mon problème avec le whatever works des dropshippers. Oui, ça, j'en parlerai plus tard. J'en ai déjà un petit peu parlé. Les gens vous reprochent ce qu'ils se reprochent à eux-mêmes. Voilà, alors celui-là, ça va aller très très vite. Quand une personne vous dit « Ah, vous êtes arrogant » ou « Vous n'êtes pas très généreux », vous pouvez assumer à, allez, je vais dire 80%, non, allez, bon, je vais dire 100% et je vais mettre deux possibilités dedans. Vous êtes sûr à 100% que soit c'est une personne qui est beaucoup plus arrogante que vous, soit c'est une personne qui a été très arrogante et qui combat son arrogance. Parce que, en fait, quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, et parfois réfléchissez au fait que vous le faites aussi, ces trucs-là. Moi, je sais que quand j'essaie de... Quand j'avais une période là, un peu de brain fog là, j'avais un blocage mental en fait avec la notion de vendre, avec la notion de vente. Je me sentais pas à l'aise avec l'idée de vendre et je me disais ouais vendre c'est un peu tromper les gens, blablabla, manipulation, mon cul, etc. Des trucs faux. Et ce malaise, je le reprochais, je le projetais en fait sur tous les sales que je rencontrais. Je me disais ouais n'importe quel sales, regarde mais non, il va faire le sales, c'est un expert, il va te faire une tape dans le dos, tu vas signer son contrat et après tu vas te faire enculer. Et ça en fait le problème il n'était pas chez les gens, il était chez moi. Et donc c'est parce que c'est beaucoup plus facile de voir un truc chez quelqu'un quand tu as passé des heures à l'analyser, que tu te le reproches à toi-même. En fait, quand tu te reproches un truc à toi-même, tu le vois beaucoup plus vite chez les autres. et tu as envie que les autres payent aussi ce truc-là, alors que souvent le problème vient de toi. Donc faites attention quand vous faites, n'acceptez pas toutes les critiques, faites attention aux gens. Je dis à l'arrogance parce que souvent les gens, en fait, c'est les gens les plus arrogants qui traitent les autres personnes d'arrogantes, qui sont pas à l'aise avec leur ego. Sachant que l'ego est une bénédiction, hein, on pourra en reparler. Et je vous dis ça, moi j'ai tatoué Ego is the enemy sur mon avant-bras. On en reparlera plus tard, ça, je pense que ça pourra faire un petit épisode de podcast. Voilà, donc je vais terminer par ça. J'ai mis ce qui est important, c'est la pente de la courbe. Alors, est-ce que vous vous souvenez, en seconde, quand vous avez fait le cours sur les fonctions linéaires ? Fonction linéaire, c'est une fonction sous la forme f de x égale ax, donc un coefficient, le a fois le x. Et donc ce petit a, ça a un nom, ça s'appelle le coefficient directeur. Et donc quand vous modélisez une droite sur un graphique, il y a les abscisses et il y a les ordonnées, et donc alors voilà, c'est chaud sans les slides, c'est chaud par audio. Comment je vous l'explique ? Le coefficient directeur, c'est en gros quand tu avances de 1 en abscisse, de combien est-ce que tu montes en ordonnée ? Donc si ce a, il vaut 1, ça veut dire f de x égale x, quand je fais 1 en abscisse, je monte de 1 en ordonnée. Donc si je devais tracer la droite f de x est égal à x, eh bien ça ferait une droite diagonale, vous voyez. Parce qu'à chaque fois que tu augmentes de 1 en bas, tu augmentes de 1 en haut, et donc finalement ça suit une équation très simple. Si la droite c'était f de x égale à 2x, et bien la pente elle serait beaucoup plus élevée. Donc à chaque fois que j'avance de 1, je monte de 2. Et ça, pourquoi est-ce que c'est important les coefficients directeurs ? C'est parce que et bien les gens, ils ont des coefficients directeurs. Les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, ils ont tous un petit facteur qui dépend aussi du domaine dans lequel ils ont choisi de mettre leur focus, mais un petit facteur qui détermine s'ils sont sur une pente ascendante ou descendante. Et il y a plein de gens qui ont un coefficient directeur négatif. Et il y a un truc aussi qui est très important, il y a deux choses. La première chose, c'est que je pense que vous pouvez travailler qu'avec des gens qui ont un coefficient directeur proche du vôtre, parce que sinon c'est très simple, hein, vous prenez deux droites, une qui a un facteur de f de x égale à 2x et une f de x égale à x, vous les mettez sur un graphique, bon au premier palier il n'y a pas énormément de différence, c'est entre 1 et 2, au deuxième palier c'est entre 2 et 4, au troisième palier c'est entre 3 et 6, 2x, ouais, donc il y a 3 d'écart. Celui d'avant, il y a 2 d'écart. Celui d'avant, il y a 1 d'écart. Et en fait, à chaque étape, il y a de plus en plus d'écart. Et donc finalement, des droites qui n'ont pas le même coefficient directeur finissent par s'éloigner. C'est la même chose avec les gens qui ont pas le, qui veulent pas grossir aussi vite que vous sur les domaines sur lesquels vous voulez grossir. Et donc ça s'applique très bien évidemment à une entreprise. Si les gens ne progressent pas assez vite par rapport à la vitesse de croisière de la boîte, et bien, ils finissent par ne plus se retrouver dans ce que vous faites. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que il faut être sûr que tout le monde ait la même ordonnée, je vous en parlais. Donc en ordonnée, c'est ce qu'on mesure, hein, c'est la droite qui va vers le haut, là, à gauche. Putain, c'est vraiment imprécis comme indication, mais vous voyez ce que c'est l'axe des ordonnées quand même. Je pense que je ne fais pas l'insulte de croire que vous n'êtes pas allé jusqu'en seconde. Eh bien, sur cette droite-là, il y a des gens qui choisissent de mettre l'argent, d'autres qui choisissent de mettre le bonheur, d'autres qui choisissent de mettre le kiff, les vacances, etc. Eh bien, par exemple, la culture de boîte, je me suis souvent posé la question de pourquoi est-ce que ça marchait aussi bien chez Kodak. C'est parce que la culture de boîte, ça permet de s'assurer que tout le monde a la même chose en ordonnée. Parce que, tout le monde se mesure. On essaie de faire en sorte que tout le monde ait le même coefficient directeur déjà et que tout le monde juge la même chose. Nous, on est là pour être excellent, on veut faire de la croissance. Et personne s'en cache, on n'est pas là pour être numéro 2. Il y a plein de boîtes qui sont là pour faire des petites PME sympas, bien rentables et tout. Alors, c'est une boîte qui lève des fonds. Nous, on veut un bon ratio risque et reward. Et donc, on choisit ça. Eh bien, cette culture de boîte, ça nous permet d'être sûr que tout le monde se mesure dans la bonne dimension. Parce que une bonne culture de boîte, c'est aussi... C'est pour ça que c'est pas grave qu'une culture de boîte fasse partir des personnes. Parce que vous voyez que quand il y a des droites qu'on des... Parce que là, je vous ai pris entre X et 2X. Hein. Si je vous prends entre X et 10X, parce que parfois c'est le cas, il y a des gens qui progressent 10 fois plus vite que d'autres. Eh bien, il ne suffit pas de beaucoup de jours, parce que l'abscisse, vous pouvez prendre ça comme des semaines, par exemple, de travail. Donc, au bout d'une semaine, il y en a un qui a progressé 10 fois plus vite que l'autre, ça fait 1 et 10, déjà énorme. La deuxième semaine, c'est entre 2 et 20, etc. Bon, et bien, les gens, ils partent très, très vite quand ils sont dans un truc qui n'est pas à l'aise. Et c'est pour ça que c'est ça qui détermine s'il y a des fits ou pas des bons fits. Donc, c'est pour ça aussi que la question, les gens qui demandent, ouais, c'est quoi le turnover de la boîte que je vais rejoindre là ? Il y a un gros turnover. Mais en fait, t'es con. Alors, t'es complètement con. Les bonnes boîtes, elles ont des turnovers pas élevées, mais elles ont du turnover. Quel est le présupposé derrière cette question ? Je ne vais pas dans une boîte qui a du turnover ? Tu veux que les gens ne fassent que rester ? Je t'assure, tu ne veux pas aller dans une boîte où les gens ne font que rester. C'est une boîte qui ne performe pas. Ça n'est pas possible. Donc bref, évidemment, bon, je pense que la bonne façon de poser cette question, c'est est-ce qu'il y a un turnover anormal ? Est-ce qu'il y a la moitié des gens qui partent tous les 6 mois ? Quel cas, c'est un peu chelou. Bon, bref, donc réfléchissez à quel est votre coefficient directeur et il y a une très bonne question pour savoir de combien est-ce que votre droite elle grossit, c'est où sera votre vie dans 6 mois si vous continuez à faire les choses que vous faites aujourd'hui. Et selon la réponse que vous avez à cette question, vous savez à peu près. Voilà. Moi, parfois, ça a été une phrase qui m'a fait réfléchir à beaucoup de choses à titre perso. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je pense dans Kodak, où la courbe elle était pas très haute. Où ça descendait un petit peu, on prenait pas mal de défaites et les décisions n'étaient pas bien prises. Et ce qui est dur, c'est de rehausser le coefficient de la courbe. Mais après, ça va tout seul. Donc c'est à ça que ça sert notamment la discipline. La discipline, ça sert à rehausser le coefficient. Vous allez à la salle toutes les semaines, bam, bam, bam. Vous construisez de la discipline, vous construisez des résultats. Et en fait, cette courbe, du moment que vous maintenez vos allers-retours à la salle, elle continuera d'avoir le même coefficient directeur. Et donc, à mesure que les jours vont passer, vous allez progresser. Je crois que je vais m'arrêter là pour les observations. C'était pas ma meilleure prestation, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais bon, je m'en contente. Voilà, on va dire que ce qui est important, c'est de délivrer. Je vais ouvrir les photos pour une petite gorgée. Vous m'attendez ? Lol. Parce qu'en fait, vous m'avez dans les oreilles, vous pouvez pas partir. Ah. Bon. Vous m'avez mis une chier là. Parce que j'ai pris des capteurs d'écran parce qu'en fait ça part. Putain, j'en ai combien ? J'ai 10 slides. 12. Putain, j'ai 11 slides de 8 questions, 10 questions. Putain, il n'y a plus de 100 questions. Bon, alors déjà, merci beaucoup pour toutes vos questions. Je ne pourrais pas toutes les prendre. Je vais en prendre quoi ? 10 ? Je vais en prendre les plus intéressantes. Quels sont pour toi les business avec le plus de potentiel en 2023 ? Demande Sofiane Louis. Alors, vous voyez, j'ai mon problème avec le... Je vais pouvoir faire le point de la dissertation que je n'ai pas voulu faire. Mon problème avec le whatever works des dropeux, c'est que c'est la putain de mauvaise façon de réfléchir les business avec le plus de potentiel. Souvent, quelle est la situation des personnes qui posent ces questions-là ? Il y a Naval qui disait « Les gens qui demandent des recommandations de livres ne sont pas sérieux sur la lecture, etc. » Il prenait 2-3 autres exemples. En fait, ça, c'est une question de personne qui n'a pas monté de boîte et qui essaie de mettre la charrue avant les bœufs. En vérité, c'est pas vraiment comme ça c'est comme ça que les VC, enfin l'image, le VC-backed entrepreneur réfléchit. Il réfléchit à un domaine, à un marché qui grossit, etc. Et donc qui transmet son virus à toutes les personnes qui sont des aspirants entrepreneurs. Ce qui est important, c'est pas d'être sur le business avec le plus de potentiel en 2023, parce qu'en plus ça n'existe pas. S'il y avait une réponse à cette question-là, ça c'est un sujet de vidéo YouTube. Hein, je fais du SEO, les 10 business qui vont te rendre millionnaire en 24 secondes. Ouais, ça, c'est non, ça. Ça, c'est une très bonne vidéo YouTube, c'est du divertissement. Et en vérité, c'est pas comme ça qu'on sélectionne le truc dans lequel on veut aller, parce qu'on met une partie d'idées, de kiff, de qui on est. Et donc, il y a un très bon business pour une... Le meilleur business, voilà, le business avec le plus de potentiel en 2023, c'est celui que tu vas kiffer profondément par rapport à qui tu es. Et pas celui qui va te rapporter le plus de thunes. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas la mentalité dropshipping. C'est parce que c'est le peu importe ce qui marche, je vais le faire. Donc finalement, en fait, tu es prêt à tout. Qui es-tu dans ça ? Que reste-t-il de toi derrière tout ça ? Bah rien. En fait, finalement, tu te définis par tes actions. Et ce genre de mentalité-là, le mec qui a fait du dropshipping, puis des NFT, puis de l'IA, et ben, il n'a pas de personnalité. Il n'est personne. En fait, c'est un mec qui court après le quick win et le fast cash. Et ça, c'est de la merde. C'est de la merde parce que ça, déjà, la seule façon d'être excellent dans un truc comme ça, c'est des business qui sont un peu chiants, c'est d'être un nazi de la productivité, de l'efficacité, etc., des trucs, parce que c'est des business qui sont foncièrement qui n'ont pas beaucoup de sens. Quand tu fais des NFT, etc., quel est le sens de ce que tu fais ? Qui t'aide, tu vois ? Quand tu fais du dropshipping, qui t'aide ? Ces trucs-là, c'est pas des trucs qui me plaisent. Donc, quel est le business avec le plus de potentiel en 2023 ? C'est probablement la mauvaise question à poser, je pense, Sofiane. Donc, lance n'importe quel business et découvre si tu kiffes ou pas. Et tu en testes 4, 5, 6 comme ça. Tu te trouveras bien plein de vidéos. Tape cette question dans YouTube, tu vas voir, tu trouveras la réponse. Je pense qu'il y a des gens qui te pourront donner. Et ensuite, trouves celui qui te plaît le plus pour toi. Voilà. Les vacances, elles ont coûté combien? Demande NWRGMS. Tu m'as pris pour qui là? Tu crois que je t'envoie les factures? T'es ma banquière? Tu veux les justificatifs pour Penny Lane? Laisse-moi tranquille. Mon ami, ça ne te regarde pas, mon pote. Quelle est votre meilleure erreur, celle qui vous a le plus aidé? La meilleure erreur, cette question est posée par Palpou. Il y en a plusieurs. Bah, écoute, tu sais, c'est quoi? Je vais te dire que c'est 9-16e. C'est 9-16e et plus globalement, c'est toutes les choses qu'on a faites en essayant de contourner les problèmes qu'on avait. Donc, en gros, ça fait 6 mois qu'on a le même problème chez Kodak, c'est qu'il faut qu'on progresse sur la structuration de notre équipe sales, qu'on ait plus de visibilité sur les data, qu'on soit plus professionnel dans la présentation et qu'on génère plus de leads de grande qualité. Et comme on avait du mal sur ce truc-là, que ça prenait du temps et qu'il n'y a pas d'owner du sujet, eh bien, on a essayé de développer d'autres trucs à côté parce que c'est ça que j'appelle se débattre, dont je vous parlais au début. C'est que quand tu vas dans un sens, ça marche pas, tu vas dans l'autre sens, puis tu vas dans l'autre sens, finalement, en fait, d'extérieur, tu regardes, c'est un mec qui est en train de gesticuler quoi, dans tous les sens. Donc l'erreur, ça a été de croire que on peut contourner un problème. Un problème, ça se traite. Et on ne fait pas les baltringues, on prend le problème 16, on regarde pourquoi ça ne marche pas et on le traite. Et donc la pire erreur que j'ai faite, ça a été d'essayer de diversifier parce que mon activité principale ne fonctionnait pas aussi vite que ce que je voulais. Donc de me défocus par fatigue et facilité. Et je pense qu'il y avait un petit peu de ça dans 9-16e. Voilà, c'est pour ça que je disais 9-16e. Ton top 3 podcast hors RTTM. Alors, je vais vous en donner. Le premier, c'est Modern Wisdom de Chris Williamson. Qui me plaît énormément. Le second, c'est 10 000 pas du Raptor, qui est génial. Numéro 3, c'est un podcast payant. Oui, ça existe. Sur Spotify, il y a des podcasts payants, je vous l'apprends. Qui s'appelle Strategri. Donc, Strat, comme stratégie, et Tech, comme Tech, et Eri, comme E-R-Y. Strategri. Pourquoi vous n'avez pas de bureau, dit Kevin Kempter. Bien, c'est moins une décision consciente on a décidé est-ce qu'on veut des bureaux, est-ce qu'on veut pas des bureaux, et on a décidé on veut pas de bureau. Non, c'est plus parce qu'on s'est dit qu'on prendrait des bureaux le jour où on en ressentirait le besoin. On l'a jamais fait, et on s'est rendu compte que c'est depuis devenu un avantage comparatif pour nous, puisque ça nous permet d'attirer des talents qui ne seraient jamais allés bosser dans des locaux classiques, et qui ont envie de leur liberté géographique. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas de locaux pour permettre à nos employés de s'épanouir. C'est très paradoxal, n'est-ce pas? Comptes-tu racheter ou t'associer à des entreprises de e-commerce? Alors non, c'est une très bonne question ça, Hélène 98. Non, on a déjà pensé, parce qu'évidemment c'est une idée que tout le monde a, ce truc-là. Quand tu fais du conseil en e-commerce, tu dis, mais si je lance un e-commerce quand même, je suis une brute en e-commerce, et j'ai qu'à le faire, ça va être génial. Malheureusement, il y a plein d'autres compétences au sein d'un e-commerce qui font que c'est compliqué. Bon, déjà, la première chose, c'est que j'en ai parlé avant, c'est le défocus. Je ne peux pas être excellent en agence et excellent en e-commerce. Si je lance un des deux, il faudra que je fasse un choix. J'ai déjà choisi le mien, c'est l'agence. Ensuite, les compétences, la logistique, le lancement produit, faire des sites, etc. Ce n'est pas du tout que faire de l'ads, faire un site e-commerce. Et donc, on a une très bonne connaissance, nous, du marché. Et comme un VC, il y a une bonne connaissance des startups. C'est-à-dire on voit passer beaucoup de choses. Mais on n'est pas des opérateurs de marque e-commerce. Je pense qu'on pourrait le faire. Mais voilà, c'est pas mon délire. Donc je ne compte pas racheter des entreprises e-commerce, pas pour les gérer. Comment tu te sens en août par rapport aux objectifs de début d'année? Demande Théo Treba. Alors c'est marrant, j'ai un petit peu répondu. Je me sens reboosté comme jamais. Là, j'ai une énergie mais débordante. Bon, là, vous m'attrapez forcément là. Il est 20h50 lundi soir. Je suis un petit peu fatigué. Je ne sais même pas si ça s'entend d'ailleurs. Mais je suis hyper reboosté. Je dors bien, j'ai des objectifs très clairs, j'ai réglé les autres parties de ma vie. Et je sais que voilà, juillet, août ne sont pas des très bons mois. D'ailleurs, je n'ai pas encore les chiffres d'août. Je vous les donnerai dans le prochain podcast. Donc voilà, je suis très confiant. Très, très, très confiant, d'autant plus que voilà, il y a de la news qui arrive en septembre. Et puis, j'ai enfin l'impression d'avoir compris ce sur quoi travailler. Comment associer taf et kiff? séparer les temps de travail kiff, faire ce qu'on aime. Alors, ça c'est JZEOW. JZEOW. Comment associer taf et kiff ? Eh bien, alors, moi je suis pas du tout fan, je trouve, de l'équilibre vie pro, vie perso. Je trouve que justement, c'est le meilleur moyen d'être, de devenir schizophrène que d'essayer d'optimiser deux trucs en même temps. Vous savez, je vous parle de focus depuis le démarrage. Quand tu sépares les deux comme ça, c'est la définition même du défocus. Moi, je préfère les cercles vertueux. Ça veut dire que ton taf te permet d'avoir une meilleure vie perso et ta vie perso te permet d'avoir un meilleur taf. Saint-Tropez est un très bon exemple. Je pars en vacances et je suis dans des lieux où... Oui, parce que je voulais pas tout raconter sur Saint-Tropez. J'ai vu plein d'autres personnes, plein d'entrepreneurs, etc. Et en fait, j'ai envie de... Moi, j'ai envie que les deux se mêlent, qu'il n'y ait plus de différence entre les deux, ma vie pro et ma vie perso, parce que j'adore ma vie pro. Et je n'ai pas construit ma vie pro comme un fardeau. Justement, je trouve que ça aide à supprimer beaucoup plus vite les choses que tu n'aimes pas. Parce que comme je m'investis tellement dans ma vie pro, je travaille beaucoup, c'est le centre de ma vie, j'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés via ma vie pro, j'ai beaucoup d'événements dans lesquels je prends beaucoup de plaisir à titre perso qui viennent de ma vie pro. Eh bien, dès qu'il y a un truc qui me casse les couilles, je le traite comme si c'était une merde dans ma vie perso. Donc je le coupe, je le traite. Et je suis totalement anti-séparation entre les deux. Je trouve que c'est une démarche, ce truc-là, de... Moi, je vais le dire, je trouve que c'est une démarche de sbire. C'est souvent les gens qui... C'est des gens... Parce que, bon, après, c'est pas une démarche de... En fait, c'est simplement, faut choisir. Si tu veux atteindre l'élite d'un truc, il faut admettre que tu vas devoir faire des sacrifices que les autres font pas. Si tu veux une petite séparation vie pro, vie perso, super. Fais-le, choisis. Et fais ce sacrifice professionnel. Et donc, à un moment, tu te couperas d'une partie des choses que les gens qui ont choisi de ne pas faire de séparation entre les deux pourront avoir. Et tu regardes les patrons du CAC 40, les grands entrepreneurs. Bon, bah écoute, il n'y en a personne qui rentre chez lui 17h, 18h. Salut, voilà. Là, je vais faire mes petites vacances et tout. Enfin, voilà, bref, il faut savoir faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Et donc, je pense que le meilleur moyen, c'est de voir les deux comme un monolithe. Il n'y a pas une partie de ta vie, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Tout est un équilibre. Tu mets tout en même temps et tu essaies de faire en sorte que chacun des trucs nourrisse les uns les autres. Et ça marche aussi, par exemple, avec la famille. Des très bons rapports avec la famille, ça t'aide dans toute la partie. Ça t'aide, c'est ton cadre pour le business. Moi, je vais tourner, par exemple, mes vidéos chez ma mère. J'ai tout mélangé. Je vais tourner mes vidéos chez ma mère. J'ai mis ma mère dans une vidéo YouTube. Ça va sortir vendredi. Ça, c'est l'exemple parfait. Mais vie pro, vie perso, il n'y a pas de différence. Et je suis très heureux comme ça. Je suis très heureux. Donc, ne croyez pas à tout ce que les gens racontent là sur LinkedIn. Lisez pas des posts LinkedIn. Séparation vie pro, vie perso. Moi, j'ai pas besoin de couper. Je le fais de temps en temps parce qu'il se trouve que mes vacances m'amènent à couper. Je me dis pas en disant « Ah là, je vais faire une coupure, nique sa mère. » Enfin, c'est pas, j'ai pas envie de faire une coupure. Peut-être parfois, l'activité nécessite de faire une coupure. Bah, j'ai un associé qui est parti faire le GR20. Il se trouve que oui, pendant le GR20, il a pas sorti son téléphone. Mais c'est pas, il se dit pas pendant les vacances, ouais, je coupe totalement. En fait, je trouve, voilà, questionnez ces trucs-là et demandez-vous ce que moi j'en ai besoin. Les gens, ils disent ça, blablabla. Est-ce qu'ils sont heureux? Comparé à toutes les parties de leur vie, ouais, t'as pas d'équilibre vie pro, vie perso, ouais, mon cul. Ok. Et j'espère changer d'avis quand j'aurai des enfants. Tadam! L'art de se tirer une balle dans le pied à la fin de la démonstration. Ah, ouais. Suivante. Walid Felouki. Pas une question, mais des analyses marketing de grandes ETP peut être intéressante. Ok, j'imagine que c'est une suggestion de vidéo YouTube. Salut Théo, pour toi, quel serait le meilleur business à lancer avec un revenu mensuel de 5000 euros? Bon, je comprends pas le fait de mettre ton revenu mensuel de 5000 euros. Est-ce que tu veux que ton business fasse 5000 euros? Est-ce que tu as 5000 euros investis dans ton business? Bon, 5000 euros, tout ça. J'imagine que ça veut dire que tu vas pas... Enfin, tu as envie que ton revenu finance le business que tu veux lancer. Donc pour ça, il faut aller plutôt dans la catégorie des business à faible barrière à l'entrée. L'agence en est un, évidemment. Ça se lance avec zéro cash flow. Enfin, avec zéro argent, pardon. Puisque tu as pas d'investissement upfront. Qu'est-ce que je peux te recommander? Mais c'est globalement, en fait, tous les métiers où tu vas vendre ton cerveau. Où tu vas vendre ton temps. Ça, c'est tous les trucs qui te permettent de rassembler un peu plus de capital, parce que le temps s'échange contre de l'argent, et ensuite l'argent permet d'accélérer la croissance. Donc voilà, des business, il y en a des tonnes. Moi, je ne suis pas trop fan hein, de... Je me suis imaginé que tu attendais une réponse, ouais, fais un truc dans l'IA, fais du drop servicing, c'est la nouveauté en 2023, ou une agence IA, je ne sais pas quoi. Frère, fais un truc que tu aimes. Et en fait, c'est marrant, mais ça me désole un peu, toute cette génération-là. Je parle comme un vieux, mais vraiment, ça me désole. Que ce soit ça, l'entrepreneuriat sur Internet, le business. Et à la fois, je me plains, mais c'est comme ça que moi aussi, j'ai découvert les trucs sur YouTube. C'est une porte d'entrée, en fait. Mais n'oubliez pas que c'est une porte d'entrée, tout ça. Tous ces trucs que vous voyez, c'est pour commencer. C'est un éveil. Mais après l'éveil, il ne faut pas rester coincé trop longtemps au premier stade. Il faut passer un cap pour se rendre compte, OK, c'est quoi des versions un peu plus avancées de business? Et prendre en compte plusieurs variables. OK, bon, ça rapporte de l'argent. Est-ce que c'est long terme? Pas ouf. OK, business, argent et long terme. OK, est-ce que c'est un heureux? Et voilà. Et là, et comme ça, tu trouves quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Mais arrêtons de poser ces questions, s'il vous plaît. Vous valez mieux que ça. Vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Je suis là pour vous apprendre que vous valez mieux que ça. Alors, là où les marques e-commerce B2C qui ont un super marketing. Alors, je vais essayer de vous en trouver des originales. Oui, ah non, je trouve une. La marque B2C qui a le meilleur marketing, selon moi, ce qui est très original, c'est Boku, B-O-K-U, par William Montagu, que j'embrasse. Et voilà, c'est une DNVB qui a une croissance de porc. C'est probablement l'une des marques... c'est la marque que j'ai rencontrée qui a fait le plus gros sale la première année. Donc, j'en ai vu beaucoup des marques. Donc, je vous recommande BOKU. Ils ont importé. Et pourquoi est-ce que ça marche bien? C'est parce qu'ils ont un produit avec un product market fit de porc. Donc, c'est des toilettes japonaises. Okay, c'est là où tu prends un jet d'eau dans le cul et ça nettoie les fesses. Et apparemment, quand tu testes ça une fois, j'ai jamais testé un, tu t'en remets jamais. Tu ne repasses jamais au papier toilette, qui est apparemment très sale et bactérien. C'est une abomination apparemment de s'essuyer le cul avec du papier. Et après, ben voilà, ils ont l'humour, ils sont décalés, ils ont le ton qui va bien avec leurs produits, et la façon dont ils ont choisi de le marketer, c'est très fort. Qui croire et ne pas croire sur les business models des e-commerce? Alors, personne. C'est Oslem qui demande pourquoi les e-commerce sont controversés en France. En fait, les e-commerce, voilà, ça c'est encore une fois question. Je pense que tu aurais pu être pote avec la personne qui posait la question, c'était Tar Mami avant. Le e-commerce n'est pas controversé en France du tout. Hein. Le dropshipping est controversé. Et ça me saoule que ces deux trucs soient synonymes. Le e-commerce n'est pas controversé. Il semble pas controversé du tout. Qui croit à ne pas croire sur les business models des e-commerce? Je pense que déjà. Je suis sûr et certain, il faut que tu arrêtes d'essayer de croire des gens. On n'est pas là pour croire des gens, on est là pour utiliser ce que racontent des gens pour enrichir une réflexion personnelle. Donc quand on voit Oussama Ammar qui raconte quelque chose de stylé dans une vidéo, on apprécie. Et ensuite, on compare ça avec notre base existante de connaissances. Est-ce que ça colle avec les modèles que j'ai? Et on ne va pas se dire, Oussama Ammar, il est super intelligent, il a fait plein de choses, je l'écoute à tout prix. Même s'il y a un truc qui est totalement vrai que tu dois intégrer dans ton savoir. Même chose, quand Théo il te raconte un truc et qu'il répond à une question que le dropshipping c'est de la merde, je sais pas quoi, peut-être que tu as des très bonnes raisons de penser le contraire. Et auquel cas, tu prends mon argument, tu décides si oui ou non tu la colles à ton système de connaissances, et ensuite tu fais ta propre décision. Mais le problème avec ça, parce que c'est un mécanisme de... C'est une question de quelqu'un qui a été gourouifié, ça. Ça veut dire que tu t'écoutes quelqu'un comme le Messie. Et donc finalement, tu vas pas écouter ce qu'il dit, tu vas écouter qui il est. Et tu vas pas questionner les propos, tu vas juger ça toujours selon la personne. Ok, et demain, tu vois, Yomi, il a fait 50 millions. Demain, il y a un mec qui fait 100 millions qui dit le contraire de Yomi. Bah, c'est lui qui a raison, parce qu'il fait plus d'argent. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Il y a plein de choses, il y a plein de tellement de facteurs qui rentrent dans le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est pas non plus le truc qui te permet de juger si quelqu'un dit la vérité ou pas. Donc, aiguise ton sens critique. Et tu n'auras plus besoin de savoir qui croire et ne pas croire sur les business models e-commerce. Un conseil pour choper des invités prestigieux quand on lance un podcast. Alors, je commence la chaîne dans l'ordre, je dirais. Moi, j'ai commencé en prenant les invités faciles pour lancer le podcast et faire le volume et pour avoir la compétence de podcasteur pour recevoir les gros. Et ensuite, il faut passer par du réseau. Il faut toujours avoir des intros. Tous les plus gros invités que j'ai eus, c'est une intro de quelqu'un. Donc moi, j'envoie un message sur Instagram et ensuite, je trouve quelqu'un des personnes qui les connaissent. Je demande sur Insta. Mais en fait, voilà, tu pourras malheureusement, c'est un peu pour ça que ça prend du temps aussi de faire un bon podcast, parce que ça prend beaucoup de temps d'avoir le réseau qui te permet d'aller toucher tout le monde. Et voilà, c'est un asset, c'est un actif. Demain, moi, je pourrais jamais, par exemple, avoir les invités de Mathieu Stéphanie, donc Génération Do It Yourself. Et toi, tu pourras probablement pas avoir les mêmes invités que moi, parce que ça fait 3 ans que je travaille sur une niche en particulier. Sur ma niche, simplement, et mon réseau dans ce secteur-là. Donc, passe par le réseau, et c'est quand même de te dire, tu vois, dans mon réseau actuel, déjà, quelle est la plus grosse personne que je peux inviter? Et ensuite, cette personne-là, elle connaît probablement des gens. Donc, une fois que tu as fait passer une personne, tu lui demandes, est-ce qu'il y a une autre personne qu'elle devrait recevoir? Est-ce qu'elle peut te faire l'intro? Et tu remontes comme ça, progressivement. Alors, Achille.c, recommandes-tu de commencer à travailler gratuitement sur ses premiers clients? Oui, absolument, mais absolument pas dans l'objectif de les facturer. Je te conseille de te faire des études de cas sur les premiers, parce que l'étude de cas a beaucoup plus de valeur que le peu d'argent que va te donner ton premier client. Et les business d'agence, je sais que j'imagine que c'est de ça dont tu parles, c'est un business qui se nourrit, enfin tu vas de client en client. C'est-à-dire le client numéro 1 te permet d'avoir le numéro 2, qui te permet d'avoir le numéro 3, etc. Parce qu'entre les deux, il y a l'étude de cas et la communication, c'est cette étude de cas. Tu dis, ah, j'ai obtenu tel résultat pour telle marque, viens bosser avec moi. Donc oui, je te dis, commencer gratuitement, surtout quand tu as du mal à trouver les premiers. Évidemment, si tu as la possibilité d'avoir quelqu'un qui te paye et une marque intéressante en même temps, bon, bah, prends la thune. Mais si je devais le refaire, je prendrais voilà, gratos. Comment tu t'y prendrais si tu devais tout recommencer de zéro? Bah, j'ai fait une vidéo de mon LBN, Raphaël. C'était Achille avant. Comment tu prendrais si tu devais tout recommencer de zéro? Bah, j'ai fait une vidéo sur le sujet que tu peux aller consommer. Elle est sur YouTube. Ça s'appelle « Si je repartais de zéro, faire une agence » et j'explique tout le process. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent comment est-ce que tu ferais si tu devais recommencer de zéro, par quel réseau tu commencerais. Ah, donc ça, c'est une question plus sur le personal branding. Je commencerai toujours par LinkedIn aujourd'hui pour l'activité B2B. Même s'il y a du monde, l'attention appartient au bon contenu. Donc, je pense que voilà, si vous savez partager des choses bien nichées, bien intéressantes, parce qu'en fait, ce que les gens veulent lire, c'est des choses originales, qu'ils n'ont pas déjà lues. C'est la seule façon d'émerger sans tomber dans le sketch LinkedIn, j'ai frôlé le burn-out, là. Donc, écrivez des choses intéressantes. Ensuite, The Red Baby me dit ta secret sauce pour scaler du service. Vous imaginez que de toute façon, la réponse à cette question ne pourra jamais être bien. Qu'est-ce que je pourrais donner d'original? Voilà, on va reprendre un petit peu le propos. Parce que toute la connaissance est déjà disponible sur Internet. Hein. J'ai fait une vidéo dessus sur comment scaler du service. Enfin, qui est la même vidéo, hein, si je repartais de zéro. Il faut bien comprendre que scaler du service, qu'est-ce qui bloque simplement quand on scale du service? C'est que ça ne se scale pas comme du software. On ne scale pas en rajoutant des fonctionnalités et en utilisant les effets de réseau ou je ne sais pas quoi, tous les trucs qu'utilisent les startups, ça se scale avec de l'humain. Donc, le secret pour scaler du service, ce qui scale le mieux le service, c'est les master managers. C'est les gens qui sont capables d'aller choper chez quelqu'un de la performance. De transformer un 7 sur 10 en un 9 sur 10 en termes de performance et d'inspirer les gens à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, donc d'élever, d'avoir des standards, enfin d'attendre plus des gens que eux-mêmes n'attendent d'eux-mêmes. On dirait une phrase de Vandamme, mais vous avez compris. Donc inspirer les gens à attendre plus d'eux-mêmes, pour moi c'est ça le secret. Tu investis dans des startups? Oui, j'ai investi dans pas mal de startups. C'est Val qui pose cette question. J'ai investi dans OnePilot, une société d'outsourcing de services clients qui marche très bien, qui fait 10 millions d'ARR. C'est génial, ça marche très bien. J'ai investi dans la boîte de Grégoire Combato, OnlyDust, qui vient de relever. J'ai investi dans All My Keto, qui est un e-commerce qui vient de relever aussi. All My Keto, du coup, c'est voilà, e-commerce de diète cétogène et de low carb, en général. J'ai investi dans Mobile Club, la boîte de Damien Morin, qui est client chez nous. J'ai 6-7 startups, je pense, et j'en ai oublié. J'ai investi chez Abi. Allez, Abi, A2BY, donc société d'aide à l'admin pour les auto-entrepreneurs. Abi, c'est super. C'est une équipe de ouf à Nancy. Et j'en ai mis tant d'autres. J'en ai une autre, j'ai voir sur mon profil LinkedIn. J'ai vraiment pas envie de vous oublier parce que je sens que je vais une ou deux de toutes les avoir. Ouais, j'ai investi très vite ma thune dans des startups parce que. Startups, c'est pour bien investir dans des startups, simplement il faut avoir du réseau. Et moi, je commence à avoir des deals qui arrivent. J'ai mis un peu de l'argent parce que c'est selon moi une bonne façon d'avoir un edge sur les trucs. Mobile Club. Ah non, je crois que j'ai tout mis. Abi, OnlyDust, OnePilot, Mobile Club. Je n'ai pas d'autres, si j'en ai une autre. Je suis sûr que j'en ai une autre. Bon, j'ai oublié. Sorry. Voilà. Et oui, je vous disais, ouais, voilà, la règle d'investissement principale que je m'impose, c'est pourquoi est-ce que moi, je serais la seule personne à gagner de l'argent et pas les autres. Je me pose toujours cette question. Pourquoi je ferais partie du 1% qui gagne de la thune ? Je pousse 3% des gens qui sont en positif. Et si je n'ai pas une thèse très très forte, j'y vais pas. Et donc là, par exemple, la raison qui fait que je pense que je vais gagner de l'argent, c'est parce que les gens sont très intelligents et c'est un deal qui n'est pas public. Voilà. Ce sont dit souvent. Qu'as-tu pensé de ton temps en SI à Grandchamp ? Question venant d'un élève actuel. SI, je me dis c'est lycée. Système, je sais pas ce que ça veut dire, Josh Poulin. Écoute, Grandchamp. Mais quel, c'est génial. Grandchamp, franchement, j'en ai un souvenir de ouf. Que ce soit en prépa ou au lycée, j'ai trouvé que c'était le meilleur des deux mondes entre la demande de performance. Je trouve qu'en fait, c'est une très bonne situation pour un lycée qui est à ce niveau-là. On n'est pas les Saint-Jean, les Louis le Grand, etc., là, ceux qui fouettent et Henri IV et tout, là, qui sont très très durs. Et pour le coup, on a des résultats qui sont assez similaires à ce qu'ils font eux. Donc je ne sais pas d'où vient le secret, mais je trouve que c'est en tout cas c'est très parcimonieux. À l'époque, ça l'était. Je crois que maintenant, la prépa est devenue encore meilleure. Donc ça a dû mettre la lumière sur le lycée aussi. Et peut-être que c'est devenu un peu plus dur. Je ne sais pas, mais moi, j'ai trop kiffé Grandchamp. Et ma famille habite encore à Versailles, donc je suis souvent pas très loin. Peut-être qu'on se croisera d'ailleurs, Josh. Et voilà, j'ai adoré. Pourquoi tu parles plus beaucoup de méta sur ta chaîne YouTube, demande VN Gram. Eh bien, écoute, raison très simple, aujourd'hui, c'est plus moi. Alors, je ne parle plus de méta déjà parce que je ne suis pas... je ne suis plus un opérateur de méta, c'est-à-dire que je ne gère plus de campagne Facebook. Parce que voilà, j'ai sous-traité ça à mon équipe. Et c'est eux qui le font pour moi. Maintenant, là où j'apporte le plus de valeur dans mes contenus, ce que je peux, pour revenir un peu sur la question d'avant, qu'est-ce que je peux raconter d'original et d'assez unique sur les réseaux, c'est l'agrégation de toute cette donnée. Donc je ne vais pas parler de fais tel truc dans Business Manager à tel endroit, etc. Mais je vais plutôt te dire, écoute, en moyenne, sur nos 24 marques de mode, voici ce qui marche. Et donc j'en parle sur LinkedIn, j'en parle moins sur YouTube. Pour moi, YouTube, ça se prête plus à du tuto avec des slides. Donc, je vais dans Business Manager, je clique là, blablabla. Ça, c'est plus trop un truc que je fais. Mais par contre, oui, chaque année, il y a quand même une vidéo qui sort, qui est la masterclass Meta Ads, et qui va sortir cette année, d'ici la fin de l'année, je pense. Je vais la faire cette fois-ci avec Paul. Il y a une masterclass sur le tracking aussi qui arrive, qui va être très, très, très importante, parce que personne n'a pris le virage du tracking. Et que j'ai fait en collaboration avec Florent. Donc maintenant, je vais plus faire intervenir. Mais il va y en avoir toujours sur ma chaîne YouTube. C'est juste que je vais faire intervenir des gens sur ces thématiques-là. Et aussi parce que principalement, ma chaîne YouTube aujourd'hui me sert à. En fait, c'est le plafond. C'est la taille du lac. En gros, toute l'équipe, c'est des pêcheurs. Et moi, mon travail, c'est d'élever, c'est de faire du top of the funnel. En fait, c'est de faire en sorte que je sois connu par le plus de gens possible pour permettre à mes pêcheurs derrière de pêcher plus de poissons. Je ne donnerai pas plus de précision sur cette métaphore, je te laisserai t'en faire une idée. Merci pour ta question. Alors, toc toc toc. Quel manager es-tu ? Comment gères-tu tes équipes ? Alors, j'ai une façon très spécifique de manager, John, la bonf. C'est-à-dire que je ne suis pas un bon manager. Je ne suis pas un manager dans écoute, comment tu te sens aujourd'hui, etc. Moi, je suis un manager de l'incentive. C'est-à-dire, je fais en sorte d'essayer d'avoir l'alignement le plus pur. De motivation entre eux. Ce qui est bon pour la boîte et ce que mon manager veut à titre personnel. J'essaie qu'il n'y ait aucune zone d'ombre et donc je suis très cash sur plein de choses. J'essaie de faire tomber les murs très vite sur quelle est la vraie raison pour laquelle tu es là et d'y arriver très vite. Il y a des grandes catégories de raisons pour lesquelles les gens sont dans une boîte. Il y en a qui veulent l'expérience, l'aventure. Il y en a qui veulent l'argent, évidemment. Il y en a qui veulent les responsabilités. Il faut savoir très très vite. Il y en a qui veulent la gloire. Il faut savoir très très vite pour qu'on puisse être très à l'aise les deux. De savoir quand est-ce que le deal est bon, quand est-ce que le deal est plus bon, et comment est-ce que je peux donner plus à la personne que j'ai en face de moi. Donc par exemple, une personne qui veut de la responsabilité, je lui explique comment choper une promotion. Une personne qui veut la gloire et la visibilité, je lui explique comment faire des trucs assez intéressants pour que je puisse l'inviter sur la chaîne YouTube et parler de ça. Et j'essaie d'aller chercher tous les trucs invisibles qui me permettent en fait de ne pas avoir à manager les gens. C'est ça le secret. Parce que les gens, ils se managent tout seuls, c'est pas des enfants. Juste, je leur donne les solutions pour... aligner parfaitement les intérêts. Donc en fait, à chaque fois que j'ai des points de management avec des gens, c'est toujours ça. Est-ce que l'alignement d'intérêt est toujours bien ? Oui, non, qu'est-ce que t'en penses ? Boum, boum. Et comment est-ce qu'on le retravaille ? Voilà. Question perso, me demande Poir Cassio. Pourquoi, perso, deux points, pardon, on ne voit jamais quelqu'un avec toi, entre parenthèses, couple, virgule, choix de carrière. Bah, parce que j'ai pas de meuf. J'ai plus de meuf. Et parce que, ouais, non, je sais pas, même, de toute façon, je suis toujours assez frileux de montrer cette partie-là de la vie perso. Je pense que j'attendrai pas mal de temps avant de le faire. Ça m'étonnerait que c'est un jour un intérêt dans les vidéos de montrer cette partie perso. Et puis en plus tu dis ça, moi, mon ex était partout sur ma chaîne YouTube. Hein. Elle était partout sur ma chaîne YouTube. Elle était dans Pimp My Brand, par exemple. Et donc non, j'ai pas de barrière. Je veux pas protéger particulièrement ma vie privée sur tel ou tel truc. Vous l'avez bien compris, je m'en fous un peu. Mais ouais non, c'est pas un choix de carrière. Je sais pas. Bon, là c'est juste que je montre quelle meuf, gros. Personne. Bref, passons. Salut Théo, tu investis dans l'immobilier ? Non. Yacine TBKH, je déteste les galères associées à l'immobilier. J'ai plein de potes qui m'ont confirmé que ça fait de la renta, mais il faut pouvoir assumer les merdes. Ça me fait chier. Guilin, tiré du bas, Yvon. Ça te dérange si je te vole Road to 10 Millions comme concept ? Bon, écoute, malheureusement, tu ne seras pas le premier. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Juste, réapproprie-toi un petit nom, fais un petit effort pour... voilà, faire un truc un peu original. Il y en a plein qui sont sur YouTube qui ont été refaits par d'autres personnes. Je pense à l'Odyssée du Million de Tom, que j'aime beaucoup, Tom Boglin, qui a fait Standaricom. Je pense à Board Meeting de Jordan Chenevier. Mais à chaque fois, c'est des gens qui me créditent. Donc du coup, je ne peux pas leur en vouloir. Je suis même assez fier, en fait. Donc si tu me crédites et que tu es sympa, mets-la-moi par message Instagram. J'y remets un petit commentaire. Mais après, moi, c'est pas une autorisation pour me copier, hein, tout le monde là qui écoute. Soyez original. Et oui, malheureusement, Guilin, tu sais que c'est très bien que, comme à chaque fois que tu copies quelqu'un ou que tu voles, tu seras toujours capé par mon succès à moi. Tu ne seras jamais plus gros que moi avec le concept que j'ai créé. Donc, essaie de trouver un truc. Essaie de trouver. Ah voilà, on peut faire l'exercice là-dessus. Essaie de trouver le fondamental, le pourquoi est-ce que ça a fonctionné ce format. Pose-toi la question. Et donc, toi, comment est-ce que je peux réappliquer ces trucs ? Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça a fonctionné, c'est parce que ça colle parfaitement à ma personnalité. Un petit peu d'introverti, de mec qui aime bien raconter des trucs dans son journal et donc par extension à une caméra. Et ensuite, parce que j'ai commencé le jour 1. Et parce que j'avais ce background HEC qui me rendait assez crédible. Parce que j'ai tout de suite montré l'ambition que j'avais, même quand j'avais rien. Donc, tous ces trucs-là, c'est des choses que tu peux traduire dans d'autres formats. Si jamais c'est ce que tu veux montrer. Attends, j'ai la bouche sèche. Il reste encore des questions. Je ne vais pas vous prendre encore plus longtemps. Hein. Je crois qu'il y en a des biens. Jade Sekal. Qu'est-ce que tu penses du copywriting ? Est-ce que c'est mort avec ChatGPT ? Oh putain, mais j'en ai marre des questions d'est-ce que c'est mort ? Est-ce qu'il y a des choses qui meurent, vraiment ? Dis-moi, c'est quand la dernière fois qu'un truc est mort ? C'est des titres de vidéos YouTube, ça. Et le copywriting est mort. Mais toi, tu es copywriter, tu vas cliquer. Est-ce que je suis mort ? Non, ChatGPT peut faire mon travail. Tant que t'es pas mort, t'es vivant, mon pote. Donc frérot, soit t'es déjà copywriter, tu continues à faire ton taf, t'attends d'avoir l'objection. Hey, ChatGPT. Et là, tu traites. Soit t'es pas copywriter et tu t'en bats les couilles. Oula, t'as posé beaucoup de questions. Quel genre de business tu n'aimes pas et pourquoi ? J'aime pas les business d'opportunistes. J'aime pas les gens qui sont là pour qui ont une date de fin sur les trucs, donc qu'elle soit court terme sur le cash très très vite. Ou alors les gens qui sont là, ouais, je fais un business, je le revends dans 7 ans et après voilà, je vais boire des cocktails aux Maldives. Ça me fait chier. J'aime pas les jeux finis. Alexandre Aguerter, tu penses qu'être en couple est un frein pour un entrepreneur ? Alors, être dans un couple de merde est un frein pour un entrepreneur. Et ça, tu le vois, quand ça se passe pas bien avec ta partenaire, souvent, c'est impossible que ça n'ait pas de conséquences sur ton aventure pro. Mais par contre, là, ça veut dire que là, si ça marche dans le sens bas, ça marche aussi dans le sens haut. Si tu as une super partenaire qui te soutient, idéalement qui n'est pas entrepreneur elle-même, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Je ne dis pas entrepreneur elle-même, plus parce que ça rajoute de la complexité. Et il faut avoir l'énergie pour la traiter, cette complexité. Parce que le principe d'un entrepreneur, c'est que les bas sont très bas, les hauts sont très hauts. Et quand les deux sont bas en même temps, c'est très dur. Ah, voilà. Donc non, ce n'est pas du tout un frein. Je pense que c'est même beaucoup mieux. En fait, c'est bien plus souhaitable que... En fait, c'est situation long terme. À un moment, je veux dire, l'énergie de démarrage pour lancer la machine peut-être que t'as fait les longues horaires. Bah oui, tu vas pas faire chier ta meuf, elle va pas te faire chier, hein, parce que t'en as pas, parce que tu vas pouvoir travailler autant que tu veux. Mais après, voyez, tu vas pas rester tout seul toute ta vie, gros. Hein. C'est-à-dire, moi, mon plan, c'est pas non plus de travailler comme un chien, là. Toute ma vie, le but, justement, c'est de trouver quelqu'un qui va peut-être te permettre d'aller moins vite, peut-être te faire aller moins vite, mais qui va te permettre d'aller plus loin. Et c'est la citation Pinterest, voilà, je vous laisse là-dessus, sur cette idée. Bisous, Alexandre. Raconte-nous l'embrouille avec l'agence Je t'ai le nom, pour pas leur faire de la pub. Alors, je vais la raconter. Je vais la raconter, ZSneak21. L'agence, voilà. Bon, bref, j'étais en call avec Paul, mon associé. On était en train de regarder qu'est-ce qui sortait quand on tapait Kudak pour pouvoir en fait aller se positionner sur des sites comme par exemple Sortlist, regarder nos notes Google My Business. Et donc on regardait le truc en live et on se disait, il faut qu'on traite tel truc. Et là, à un moment, on va en page 2 et on tape. C'était quoi ? C'était Kudak Avis. On avait tapé. Et en page 2, on voit marquer un article avec le titre La meilleure alternative à Kudak. Donc là, mon associé arrête tout, il rigole, il dit attends, on va cliquer dessus ensemble. Il clique et là, on tombe sur le site d'une agence et on découvre un torchon écrit et qui nous descend mais qui nous explose en mode avec que des trucs. C'était écrit par ChatGPT, on s'en est rendu compte très très vite. Contrairement, chaque paragraphe commençait comme ça. Contrairement à Kudak, blablabla. Contrairement à Kudak, blablabla. Et donc, je vois le truc. Directement, je prends le seum et je m'énerve directement. Ce truc-là, vraiment, c'était quand j'étais dans le bas du brouillard, ce truc-là. J'étais à fleur de peau, etc. Réaction très immature. Et j'envoie direct un message au mec de l'agence. Il fait gros, c'est pas propre ce que tu fais. Il fait on teste des trucs en SEO. Il me dit ça. Donc là je pars en couille. Là, je commence à m'énerver. Je dis, t'es vraiment un con. Il finit par accepter de supprimer son truc. Bon, je ne lui ai pas demandé de supprimer, mais il finit par le supprimer. Mais c'était trop tard. J'étais trop énervé. Et il m'avait trop manqué de respect avant, parce que je vous passe toutes les discussions. Bon, d'un mec qui ne devait visiblement pas être dans un très bon état mental non plus. Hein, je veux dire, pour faire un truc comme ça, c'est un peu un truc de fragile. Surtout que j'ai découvert. Et moi, à ce moment-là, je clique sur l'agence et je vois 50 employés sur LinkedIn. Je me dis, écoute, une agence sérieuse, il faut des trucs comme ça. Donc je fais le post, je fais un post pour expliquer, pour féliciter cette personne-là en public et lui souhaiter de tirer du plaisir personnel à la réussite dans son aventure et à ne pas descendre les autres. Voilà, il n'a pas besoin de ça. Ensuite, je fais le truc. Au début, je ne regrette pas. Le lendemain, je regrette un peu et puis je retourne voir la page de l'agence et je clique et je découvre qu'en fait, ils étaient 4 dans l'agence et que le mec, il avait créé que des profils de bots aux Philippines, je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas s'il bosse vraiment pour lui. C'est des gens que Claude décréa. Et donc le mec, en fait, il s'est fait un coup de buzz sur ma gueule. C'est comme, j'ai pris un cafard et j'ai dit, regardez ce cafard. Ce cafard est au même niveau que moi. Et ça m'a rappelé la citation. Répondre à un hater, c'est comme se rouler avec un cochon dans la boue. Les deux se salissent, mais il n'y en a qu'un seul des deux qui aime ça. Voilà. Donc c'était ça l'histoire. Maintenant, je ne dis plus le nom de l'agence, comme ça, personne ne sait qui c'est. Et vous avez quand même l'histoire. Ah, elle était bien ta première question. Et après, je vois que tu poses une autre question un peu grossière que je ne vais pas donner à l'oral. D'accord. J'ai oublié de vous lire. Non, je ne peux pas. Non mais c'est même pas drôle. Je peux pas faire ça. Non, j'ai quand même des standards et tout dans ce podcast. Ça parle de partie génitale et tout, c'est chiant. Alors, voilà, il y a une question sur le Raptor là. À quand le Raptor dans FT Chaussures ? Vous croyez vraiment que je vais ramener le Raptor dans FT Chaussures ? Vous êtes des oufs ? Vous êtes des grands malades ? Vous voulez que je me fasse cancel ou quoi ? À réfléchir. Comment as-tu connu Raptor Nutrition ? Est-ce que tu en es content ? Alors toi, t'es vraiment c'est sur le Raptor, là. Antoine Pêche, je pense qu'il doit bien aimer le Raptor. Comment j'ai connu ? Par le podcast. Voilà, je suis très content des produits pour l'instant. Je les consomme depuis 3 semaines. C'est très bon. Le goût est au rendez-vous. Et puis, c'est très bonne macro. Et puis, ça me donne un petit peu de discipline, un peu de rituel. Ça a permis de ritualiser un petit peu mon activité. J'adore ça. Donc, là, je viens de prendre mon zinc et mon magnésium avant de commencer ce podcast et avant de faire la nuit. C'est super. Quel serait le produit que tu lancerais en partant de zéro? Alors, tu sais quoi, Salim, j'en ai un original. Je vais te le donner et je rigole pas quand je te dis que c'est un produit à 100 millions. C'est pas une blague. Hein. Vous savez, je fais pas souvent des hyperboles comme ça. Et il se trouve que je suis tombé sur une marque il y a pas longtemps qui fait des produits pour les odeurs intimes féminines. Alors, apparemment, le problème est très simple, c'est que ce serait hormonal. Donc malheureusement, ce n'est pas un problème qui se traite avec de l'hygiène. Tu ne peux pas nettoyer et ça sent bon. Et il y a un produit qui existe au Brésil. Je crois que c'était lancé par Anita. Ça s'appelle le Pussy, P-U-S-Y, Pussy, ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus du nom exact. Et ça fait un carton. Et ce truc-là, parce que déjà, le business de la santé féminine en France et en Europe, c'est monstrueux, tu es aussi. Et c'est sous-adressé surtout, c'est pour ça. On dirait comme si les entrepreneurs avaient totalement oublié cette catégorie pendant des années. Du coup, voilà, il y a plein d'opportunités dessus. Après, moi, je conseille plutôt d'être une femme pour le faire, ce truc-là. Ça me paraît plus logique pour, en termes de crédibilité et de compréhension du problème. Et donc voilà, c'est un truc qu'elle vend en pchit ou aussi je crois que c'est en comprimé, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pussy by Anita ou je ne sais pas quoi, mais c'est un produit qui n'existe pas trop en France, je ne l'ai pas vu, donc je te le donne parce que je n'ai pas envie de le faire. Et c'est sûr qu'en termes de product market fit, ça sera au moins une Bocu, enfin, même plus que Bocu, je pense. Bon, j'en prends une dernière, après on s'arrête là, ça fait 1h26. Bon, laquelle je choisis? Comment tu t'es organisé lorsque tu étais étudiant entrepreneur? On va s'arrêter là-dessus. Donc, Alexis Gomes pose cette question. Alors, je vais te dire le secret qu'il ne faut pas répéter du tout, c'est que tu ne peux pas choisir entre les deux. Il faut choisir l'un ou l'autre. Et je te parlais de sacrifice. Il faut faire le sacrifice avant d'en avoir les fruits, de récolter la récompense. Donc, il faut choisir. Si tu veux être excellent dans ta boîte, tu trouves des manières de survivre. Tu peux choisir. Tu as trois solutions. Soit tu focus diplôme, tu fais ta boîte sur le temps qui reste. Dans ce cas-là, tu n'attends pas à avoir des résultats de ouf. Soit focus boîte et tu essaies de faire le strict minimum pour avoir ton diplôme. Moi, j'ai choisi ce truc-là, qui est moyen risqué, mais ça se fait. Donc là, pour le coup, tu dois tout optimiser, te faire aider par des gens. Gagner assez d'argent pour pouvoir payer des assistants virtuels qui vont t'aider à faire les devoirs, les trucs comme ça, etc. Moi, j'avais tout optimisé, ces trucs-là, qui m'ont permis d'avoir mon diplôme, donc de réussir les partiels et les examens. Ou alors, tu choisis de faire le gros tchad et te fous all-in sur ta boîte et advienne que pourra sur l'école, sur les études. Alors, bon, malheureusement... Et il y a très peu de chances que tu sois assez brillant pour drop out et t'en sortir indemne. C'est un truc de Mark Zuckerberg, ça. Malheureusement, nous ne sommes pas Zuckerberg. Personne d'entre nous. Ou alors, heureusement, je ne sais pas, ça dépend. Peut-être qu'on aurait l'occasion de casser la gueule à Elon Musk. Putain, je m'égare. Il est tard. Non, il n'est pas tard, mais moi, je suis fatigué. J'ai trop travaillé. Il faut faire un choix, malheureusement, mon ami. Il faut que tu choisisses et que tu commites à quelque chose, toujours. Paye ton sacrifice et ensuite, peut-être que tu obtiendras le résultat. Mais en tout cas, va pas chercher des trucs, ça sert à rien. Franchement, surtout quand tu te lances dans une activité, va pas direct faire un drop-out, je sais pas quoi. C'est trop de risques pour le reward. Quand tu as un petit truc qui marche un peu, si tu considères la question, vas-y, à tes risques et périls, moi, je recommande pas du tout. Donc l'organisation c'est tout pour la, pas la magouille mais la filouterie. Et d'abord, et la première chose évidemment, j'ai sauté cette étape parce que c'est pas très bien passé pour moi, je sais, c'est d'essayer d'aller voir ton école en leur expliquant, regarde, j'ai ce truc là qui marche très bien, viens, on s'arrange, on accommode. S'ils te disent oui, c'est super, s'ils disent non, bah ils ont cherché et c'est toi qui feras le filou. Voilà, écoutez les amis, c'est déjà la fin de Road to 10 Million. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir suivi ces 11 épisodes. Parce que j'ai fait mon zéro de baltringue. Bon, en tout cas, on célèbre le 10e aujourd'hui ensemble. Et je pense qu'on comptera comme ça désormais. Merci d'être avec moi. J'ai pas prévu de m'arrêter. J'ai pris énormément de plaisir. Mes excuses pour pas vous avoir livré d'épisode la semaine dernière. Ça arrivera peut-être. J'allais dire ça n'arrivera plus, mais j'en sais rien. Peut-être. Et on se donne rendez-vous lundi ou mardi prochain pour un nouvel épisode de Road to 10 Million, le podcast. Je vous kiffe.